bienvenue dans Commute, ravi de vous retrouver dans votre podcast sur la mobilité. On a enfin pu bouger de chez nous pour pouvoir enregistrer en studio et c'est un plaisir pour moi de retrouver mes acolytes préférés avec à ma gauche Chloé, comment vas-tu ?
Ça va, je n'ai pas le Covid.
Ah, je suis ravi de le savoir, vraiment, étant donné que je suis juste à côté de toi, mais un mètre nous sépare actuellement. Nous sommes évidemment très très prudents. 2,50 m me séparent de Victor. Bonjour Victor.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ben, ça va très bien. Très heureux de vous retrouver en physique après une trop longue pause.
C'est clair.
Vous n'avez pas changé. C'est fou.
J'en ai exactement. Est
toujours aussi beau et jeune.
Ouais, et Victor, il a des mollets beaucoup plus gros là.
C'est vrai.
On sent qu'il pédale beaucoup.
Je ferai acte pour le lobby du vélo tout de suite après.
Aujourd'hui, notre épisode va parler de voyage. On va parler de voyage dans différentes, évidemment, de différentes façons. On va parler de voyage passion. On va parler de point d'analyse, en tout cas, de voyage de manière générale. On va parler du voyage passion de Chloé.
Oui.
Passion absolue.
Teasing.
Le voyage.
Ce n'est pas par une agence.
Ah,
mais
vous verrez. En tout cas, on va explorer pas mal de voies vers le voyage qui nous emmèneront évidemment probablement juste à côté de chez vous et aussi eh bien, dans le ciel et les espaces. Trois news encore nous accompagneront dans cet épisode et on va commencer immédiatement avec toi Victor et la toute première chronique.
Et bien aujourd'hui je vais vous parler de voyage et là tu me dis
voyage
plus loin que la nuit et le jour, voyage dans l'espace inouï, l'amour de l'amour, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Petite dédicace à Karim Debbache, tu nous manques. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer en quoi le tourisme et les formes qu'il prend, et ben, c'est lié intimement au mode de transport et aux réalités sociales qu'il y a derrière ces modes de transport. Entre les premières lignes de chemin de fer touristique et du 19e siècle et les charters d'aujourd'hui, il y a un monde, littéralement. Et des réalités socioculturelles complètement opposées. Le profil du tourisme aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui du 19e siècle. Et alors pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, est-ce que vous savez d'où se vient le mot touriste ?
De la tourista, la maladie ?
Pas du tout.
Non, c'est pas un truc du 17e siècle, Jean-Jacques Rousseau, le tour pour
Exactement.
Éduquer les jeunes.
Quelle femme cultivée !
Wow,
c'était les aristocrates anglais. Les aristocrates anglais qui faisaient leur grand tour au début du 19e siècle et jusqu'au début du 17e siècle. C'est une sorte de voyage initiatique chez les élites qui parcouraient l'Europe pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'était un moyen pour elles de rencontrer d'autres élites en Europe et donc de développer un peu leurs relations sociales et professionnelles, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de profession, mais du moins de développer ce qu'on dirait aujourd'hui leur réseau. Et donc vraiment de faire un lien et un tissu de culture commun entre les gens de la haute sphère de la société européenne. C'est une sorte d'Erasmus pour les plus grands fortunés, si vous voulez. Il va falloir attendre les années 1930 pour que le tourisme vraiment se développe au-delà des plus fortunés, avec le Front populaire les congés payés obligatoires.
Ah, voilà.
Voilà. C'est le 20 juin 1936 que sont votées les deux premières semaines de congés payés après une longue période de grève.
Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
Donc normalement, vous avez en tête des images de trains bondés, de Français en slip de bain montant des années 30, au bord des plages du Touquet, en Bretagne, sur les stations balnéaires du bord de l'Oise. Mais il faut savoir que c'est une réalité sociale qu'il faut contraster, parce qu'un Paris-Nice, à l'époque, c'est la moitié d'un salaire d'un métallurgiste, d'un ouvrier parisien.
En transport en commun ?
Ouais, en train. Si tu veux faire un Paris-Nice en train, c'était la moitié d'un salaire d'un ouvrier.
Et surtout, c'est combien d'heures ?
C'était très long. J'ai pas regardé l'heure.
Je crois qu'un Paris-Lorient, c'était une journée entière.
C'est fort probable.
Fait long. Si t'as qu'une semaine, c'est chaud, quoi.
C'est chaud.
C'est à la même distance, en vrai, mais oui, c'est long.
Ouais.
Et donc, pour un peu lutter contre ça, il y aura la création d'un billet populaire de congé annuel qui permet à une famille entière de voyager à moitié prix, à condition de rester 5 jours sur place. Et le truc le plus incroyable, c'est que ça existe encore. Mais j'ai appris ça hier, en faisant ma chronique. Le billet de congé annuel, ça existe encore. C'est valable une fois par an si vous êtes salarié, sachez-le.
Non mais attends,
sans carte de réduction, sans rien, vous pouvez obtenir 25% de réduction pour un aller-retour à condition de rester 5 jours sur place. Si vous justifiez que vous êtes salarié, tapez sur Google billet de congé annuel. Il y a une page du gouvernement qui vous explique comment ça marche.
C'est fou. Pourquoi on n'est pas au courant?
Alors personne n'est au courant.
Bon, je suis pas salarié, mais.
Si tu justifies un emploi, c'est pas que salarié, t'as toute une liste. En gros, c'est pour si t'es employé et si t'es posé sur tes congés annuels, tu as le droit à 20% de réduction.
Mais du coup, c'est l'employeur qui paye ou c'est l'État?
Non, c'est l'État, c'est la SNCF.
Ah bah c'est pour ça qu'on sait pas.
Non, c'est pas, ça t'embourse pas, c'est juste t'as le droit à une réduction.
Oui, mais du coup, ça fait un manque à gagner pour la SNCF.
Oui, mais voilà.
Tout type de transport ou transport en commun aussi?
Non, juste un billet SNCF. Oh,
c'est fou.
C'est juste fou.
On va faire ça demain.
Et donc du coup, comme tu dis, on traverse la France en petit train et pendant ce temps-là, les bourgeois et les gens qui ont des sous peuvent découvrir le plaisir du transport aérien, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard.
Déjà.
Il va falloir attendre la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre pour que les départs en vacances se fassent de plus en plus massifs pour les Français avec l'avènement de l'automobile. Mmh. Et des routes nationales qui relieront le Sud, notamment la Nationale 7, qui était très connue avec la chanson de Charles Trenet et tout ça. Et du coup, on a vu des politiques publiques qui ont essayé de dynamiser un peu certaines régions de France qui étaient vues comme moins attractives pour un peu surfer sur cette vague du nouveau tourisme. J'en veux par exemple les espaces montagnards qui vont être complètement transformés par le plan neige de 1964 à 1977 avec la création des premières stations de haute montagne comme la Plagne. Vous avez toute la liste si vous voulez sur Wikipédia. Mais donc du coup il faut se rendre compte que du petit train à l'avion et à la voiture, tu traverses pas les espaces de la même manière, tu vas pas aussi vite, aussi loin. Et les endroits où tu vas ne sont pas les mêmes, puisque entre aller à Guingamp et aller au Japon, c'est pas tout à fait ni le même budget, ni le même temps.
J'avoue.
Sauf que, un peu quand même, parce que si tu fais un Paris, on va arrêter de parler de Paris, mais genre un Marseille-Lille, dans le temps que tu peux faire un Marseille-Lille, tu peux partir à New York, si tu fais en voiture.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a toujours bluffé.
Attendez, maintenant? À l'époque maintenant?
Non, maintenant.
Bah,
c'est
8
heures, c'est 8 heures, hein, Marseille-Lille, peut-être un peu plus.
Non, c'est le TGV direct.
Non, pas un TGV, en voiture.
Ah, en voiture.
Oui, si tu fais le trajet en voiture.
Ah oui, mais tu vas pas à New York en voiture, donc il faut comparer deux choses comparables.
Mais tu as 8 heures de ta vie, c'est
ouais,
c'est
ouais,
des choses
comparables. Après, n'oublions pas l'avion, il y a avant et après.
C'est vrai.
Ça prend jamais 6 heures de prendre l'avion.
Ça, c'est vrai.
C'est très relou. Mais pardon, je te coupe.
Pas du tout. tout ça pour dire que les moyens de transport associés, ça façonne les territoires. Parce que, justement, tu te déplaces pas de Paris à New York sans passer par Roissy-Charles de Gaulle et tu vas pas dans le sud de la France sans prendre des autoroutes. Et aujourd'hui, si on pense un peu aux transformations, on se dit... Allez, Côte d'Azur bétonnée, ou admettons, station balnéaire du bord de la Méditerranée, pas forcément française. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Par exemple, je vais vous citer un truc qui va vous paraître bizarre, mais d'où viennent les étoiles Michelin? Parlant de transformation de territoire.
A priori, de l'entreprise Michelin.
Oui, pourquoi?
Pour inciter les gens à voyager sur leur route?
Pas vraiment, parce que
y a pas de route,
Michelin, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pneus, et ils avaient un guide, le guide Michelin dans les années 30, qui était un guide à destination des automobilistes. Et du coup, ils ont mis un système de recommandations pour les restaurants.
Ouais.
Et pour,
c'était le TripAdvisor de l'époque.
C'est ça, mais en gros, c'est un guide qui... Ça passait du tutoriel à comment changer un pneu à la liste des garages de France, au resto. Non, mais vraiment... Et du coup, le système des étoiles, et j'ai appris ça aussi récemment, c'est qu'un restaurant... Une étoile, c'est un restaurant qui vaut pour s'arrêter sur son chemin. Un restaurant deux étoiles, c'est un restaurant qui mérite un détour. Et un restaurant trois étoiles, c'est un restaurant qui mérite qu'on fasse le voyage.
Ouais, d'accord.
Wow, c'est fou.
Okay.
Et donc, du coup, ça, tu te poses pas la question quand tu prends ton TGV ou ton avion de t'arrêter au milieu pour prendre ton café en allant, en faisant ton Vienne-Moscou.
Donc, il n'y a que des restaurants une étoile sur nos chemins, alors.
Voilà. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne traverse pas les espaces de la même manière et ils ne se transforment pas de la même manière parce que, du coup, les restaurants Michelin... entre avoir une étoile Michelin et ne pas avoir d'étoile Michelin, ça change vraiment la vie d'un restaurant.
Ça change le prix du menu aussi. Hein.
Voilà. Mais, et donc, du coup, on a des espaces qui s'adaptent et qui se configurent en fonction des besoins touristiques et du prestige touristique. Et donc, du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que entre un voyage qui vadrouille de gîte en gîte et de restaurant Michelin en restaurant Michelin et un voyage en tour opérateur par un avion charter, c'est pas les mêmes enjeux d'aménagement. Et du coup, on a des endroits et des paysages et des villes qui se sont complètement reconfigurés pour accueillir le tourisme.
Évidemment.
Et par exemple, aujourd'hui c'est d'autant plus vrai puisqu'on peut prendre massivement l'avion pour aller très vite, très loin. Et alors qu'avant, bah, je vais faire un peu le vieux con, mais est-ce que vous savez combien de temps mettait le paquebot Normandie à faire la traversée Le Havre-New York?
Ah ouais.
Aucune idée.
Je dirais 3 jours.
Pas mal.
Ah, c'est marrant, j'aurais dit un bouc.
C'était 4 jours, je crois. 4 jours et 3 heures.
Ça va
Le Concorde.
Oh, le Concorde, c'est quoi? Il faisait 5 heures, c'est pas 5 heures?
3h30.
Oh là là,
mais 3h30. Et aujourd'hui, en avion, c'est 8 heures environ. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que entre quelqu'un qui planifie un voyage pour aller juste passer un week-end ou pour passer une semaine, c'est pas les mêmes infrastructures touristiques. Et ça a changé les réalités de certaines villes. L'exemple le plus récent et le plus controversé, c'est... je vais m'appuyer un peu sur... Airbnb, qui a été un peu au début lancé comme le moyen de se faire un peu d'argent en louant sa résidence principale. Et toi, t'allais dans une ville, peu importe, en Europe, tu payais 20 balles, c'était moins cher qu'un hôtel, c'était un peu plus authentique que être dans le Formule 1 ou l'équivalent un peu partout ailleurs. Mais sauf que Airbnb, à Paris comme à Tokyo comme à San Francisco, ça a complètement fracassé le marché immobilier pour les locaux. Et on se retrouve avec des villes qui sont un peu défigurées par le tourisme, que ce soit sur leur paysage à eux, ou enfin sur vraiment le paysage urbain, mais même juste la structure sociale et immobilière de la ville. Et encore là, je vous parle donc de solutions peu chères comme Airbnb et les charters. Mais les charters, justement, pour Lisbonne, par exemple, saviez-vous que la mairie, la municipalité de Lisbonne, paye quand les avions sont vides pour maintenir les prix bas, pour que tu puisses maintenir de l'afflux touristique dans la ville.
Et pour eux, c'est rentable.
Pour eux, c'est rentable.
D'accord.
Parce qu'il y a plus de retombées pour la région. Et donc, du coup. Moi, je pose la question, est-ce que c'est vraiment plus pertinent d'aller se faire un week-end à Lisbonne ou d'aller découvrir, je ne sais pas, Brest ou n'importe quelle autre ville en France qui pourrait être à la fois moins loin et qui vous coûterait moins cher?
Je rêve d'aller à Lisbonne.
Tu rêves d'aller à Lisbonne?
Mais c'est pas cher du tout.
Mais c'est pas cher du tout.
Sur place.
Et je vous dis ça aussi, mais ça cache une autre réalité socio-économique, c'est qu'en France, il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances chaque année. Faute de moyens, et souvent, ils préfèrent envoyer leurs enfants se balader et rester eux à la maison, faute de sous. Donc, tout ça pour dire que le voyage, que ce soit le bourgeois du 19... enfin, l'aristocrate du 17e siècle qui fait le tour de l'Europe, ou moi qui fais Melun-Auxerre à vélo, puisque je vais vous parler de ça après, il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les goûts. Et ce que je vais vous recommander pour cet été, si vous avez les moyens de le faire, physique et le temps, c'est de faire du bikepacking. Ce sera un peu je vais vous laisser sur ma chronique là-dessus. Le bikepacking, c'est quoi? C'est le voyage à vélo, c'est-à-dire prendre son petit vélo, mettre une tente un peu légère si vous pouvez, 2-3 sacoches avec 2 slips, de quoi vous équiper pour de la pluie et de quoi vous laver, et vous mettre sur les routes de France pour aller découvrir les paysages. Moi, j'ai fait ça à l'espace d'un week-end, donc je vous dis, je me suis mis dans un Transilien et je suis allé jusqu'à Melun, et j'ai fait Melun jusqu'à Auxerre en 2 jours avec ma chère et tendre. Ça n'a que des avantages, puisque 1, c'est écolo, Tu pédales avec tes petites jambes, tu n'utilises pas de pétrole et c'est super. C'est Covid compatible en ce moment.
Ouais. Puisque, c'est relativement Covid compatible.
Puisque
c'est vrai.
Tu peux te distancier tout ce que tu veux avec ton vélo, tu es sur une piste cyclable tranquille. C'est hyper fun parce que t'as pas besoin. Tu prends une piste cyclable, là, on a pris des chemins de halage qui étaient sur les bords de Lyon, donc il n'y a quasiment pas de pente. C'est juste des petits chemins qui sont tout plats, tu vas à ton rythme et tout, et tu traverses des paysages. Tu n'as pas ça en fait quand tu traverses en train, tu peux encore regarder par la fenêtre, mais. Puis sur une autoroute, tu vois pas tous les petits villages de France que tu traverses quand tu vas n'importe où ailleurs. Et moi, je me suis rendu compte que je connaissais mieux des endroits qui étaient très loin de Paris où j'allais régulièrement, alors que là, j'étais à 2 heures de Paris et je ne m'imaginais pas qu'il pouvait y avoir des petites boucles, des marais, des champs avec... Il y avait de la lavande qui était... Alors, de la lavande au sud de Paris, c'est un peu surprenant, mais c'était très beau. en cette période où l'économie a un peu souffert et surtout les commerçants dans les petits villages qui souffrent de pas avoir de touristes et de gens qui consomment moins, et ben ça permet de un peu de soutenir le tissu local de nos belles régions de France. Voilà, donc
tu recommandes.
Je recommande. Ça demande un petit peu d'équipement, mais ça sera beaucoup moins cher qu'un aller-retour à New York. Et de toute façon, n'y allez pas parce que c'est pas possible.
Et du coup, je rebondis sur si tu recommandes. Comment t'as choisi ton parcours de vélo ?
Alors, il y a plein de moyens de choisir son parcours de vélo. Il y a beaucoup d'associations et de sites quand vous tapez bikepacking ou voyage à vélo. Qui vous recommande des itinéraires. Il y a beaucoup de sites sur... Si vous, par exemple, une région vous intéresse, les offices du tourisme font souvent des parcours à vélo. Il y a un site qui recense les véloroutes en France, qui est très très bien. Il y a une véloroute qui fait vraiment toute la côte de Dunkerque jusqu'à Biarritz. Donc vous pouvez passer... Vous choisissez votre côté de côte et vous pouvez y aller. Et moi, ma petite reco perso, si vous êtes dans la région parisienne, c'est vous pouvez faire Paris-Londres à vélo.
Oui.
Mais non.
C'est ouais, tu peux faire ça par la rue verte. Tu fais Paris-Dieppe.
T'es en train de me parler. Ouais, Paris-Dieppe, je vois.
Tu fais Paris-Dieppe à vélo. À Dieppe, tu te mets dans le ferry et t'as une piste cyclable qui va jusqu'à Londres derrière. Il y a Omar de la communauté qui l'a fait et ça se fait très bien. Ça se fait très bien, c'est très facile et c'est super intéressant.
Ça se fait très bien.
Non, franchement, c'est...
Faut faire un petit cardio quand même, non ?
Mais vraiment, faut le faire à son rythme. Justement, le site de l'Avenue Verte recommande des étapes en fonction du niveau physique dans lequel vous êtes. Donc, vous pouvez un peu sélectionner si vous voulez faire 20, 30, 50, 100 km par jour selon votre forme et si vous avez des enfants aussi. Parce que c'est moins facile d'emmener des petits longs. Sinon il y a plein de parcours pour faire le tour des fromages en Île-de-France.
Mais tellement bien.
Les tours des producteurs
de pas du tout.
Les producteurs de brie à vélo, trop bien.
Parce que tu pourrais faire ça aussi en Bourgogne et dans la région bordelaise sur les vignes, mais c'est un peu dangereux de faire des dégustations de vin sur ton parcours de vélo, avec modération toujours. Mais alors, je me fais l'avocat du diable, pardon, je vais taper peut-être sur la SNCF, est-ce que c'est si simple que ça d'embarquer ton vélo dans le train pour rejoindre le départ d'une route ? Parce que tu pars
si c'est un TER ou un train intercité, c'est gratuit, vous avez des emplacements où vous n'avez pas besoin de démonter votre vélo. Si vous prenez les TGV, c'est obligatoirement dans une housse avec un vélo démonté. Alors après, il faut quelques notions de mécanique, mais en gros, c'est retiré. Après, c'est mieux de savoir démonter deux roues de vélo si tu pars faire un voyage en vélo.
Ouais, après, c'est bizarre que les trains les plus rapides et les plus grands sont ceux qui accueillent le moins. Parce que j'ai fait le voyage en TER, du coup, au Havre, il y a quelques semaines, là. Déjà, je pense qu'ils avaient vendu 3 fois plus de billets qu'il y avait de places assises dans le train. Et évidemment, tu as le droit de voyager avec tes vélos et tout ça en TER. Tout le monde arrivait avec les vélos. J'étais entre 3 vélos et demi et des gens qui étaient assis tous par terre dans les inter-trucs. En ce moment, c'était...
C'est pas top, quoi.
J'ai vécu 2h30 de voyage d'une intensité... quand même.
Bah écoute, moi, à l'inverse, j'ai fait un Paris-Annecy pour rejoindre les copains de la communauté qui nous ont invités à faire un petit tour du lac par l'école. Je recommande le lac d'Annecy, c'est magnifique, allez-y,
c'est trop beau.
Et je me suis mis dans un TGV à l'aller et au retour sans aucun problème. J'avais,
Le TGV était bien.
Mais faut démonter le vélo. C'est un peu pénible quand t'es rincé après ton week-end et de le remonter sur le quai de Gare de Lyon, mais... mais c'est 100% recommandé.
Ah, en tout cas, backpacking, très intéressant. Tu n'utilises même pas de petite mini caravane, là, comment mini.
Des remorques ?
Ouais, une remorque, excuse-moi.
Non, moi, j'ai pas eu besoin. J'ai eu plein de tapez sacoche de vélo sur Google. Ouais. Vous verrez, il y a des alternatives insoupçonnées.
Ah, c'est absolument incroyable. J'ai un très bon ami qui a fait un demi-tour du monde à vélo. En partant de Paris, en terminant à Tokyo.
Dans les gens qui sont sur le Discord, il y en a un qui a fait le tour du monde, qui a fait 27 000 km en un an.
La motivation.
Ces photos sont magnifiques.
Comment vont tes fesses, Victor, du coup ?
Ça va très bien.
Qu'est-ce qui prend le plus cher ? C'est les fesses, les cuisses, les mollets ?
Alors, je pense. Enfin, je ne sais pas.
Les bras. Alors, bizarrement, moi, c'était les bras. C'était à force de vibrations et tout. Parce que un bon cuissard, ça sauve les postérieurs. Et franchement, si on pédale. Enfin, il ne faut vraiment pas le faire en mode sportif. Il faut pédaler pour regarder le paysage et il n'y a aucun problème.
Moi, personnellement, c'est toujours mon scrotum qui fait très, très mal.
Ah. Faut avoir des selles adaptées aux morphologies masculines.
T'es absolument horrible. Mais voilà, tout ça se fait. Merci beaucoup, Victor.
Mais de rien.
Très, très, très intéressant, bien entendu. Voilà, le backpacking, vous pouvez vous aussi essayer. Et
passer sur le Discord, on a plein de conseils. On a une team vélo qui n'est pas du tout au taquet tout le temps.
Ah non, mais vous êtes plus qu'énervé, hein, j'avoue. Ouais.
N'allez plus sur le forum, on mettra à jour les liens, mais le forum est mort de sa belle mort.
Le vélo, c'est très très contagieux en ce moment, et bon, c'est vrai qu'il y a une hype absolue et totale du vélo partout.
La MUA peut en témoigner.
Genre vraiment partout en France, parce que voilà, il y a un retour en force du vélo.
Pour éviter les transports en commun.
De plus en plus d'infrastructures bien mises en place. Dans tous les pays de France, hein, tu dis. Tu peux traverser des paysages à vélo. Le vélo électrique, évidemment, qui va te permettre de traverser les.
Pour les gens qui ont des conditions physiques un peu plus fragiles ou qui sont un peu plus âgés, le vélo. Et pour ceux qui ont aussi envie de moins se fatiguer, hein, le vélo électrique, c'est très bien.
Ouais, et puis ça, en montagne, ça a complètement relancé le tourisme en montagne quand il n'y a pas de neige, quoi, tu vois.
Mais c'est trop bien.
Parce que c'est beaucoup plus facile de profiter de la montagne grâce à ça. Donc,
vive le vélo.
En effet, très très bien. Merci beaucoup, Victor. On va enchaîner avec la toute première news. Et c'est moi qui vais vous parler de la nouvelle réglementation pour les trottinettes électriques. Alors, fin 2019, notre beau pays a voté enfin la nouvelle réglementation pour les trottinettes, les overboards, les gyro-roues, les monocycles, les biwheels, et tout ce qui roule bizarrement et qui fait ce que l'on appelle le fameux floating dans nos villes ou ailleurs. Et vous allez voir que c'est quand même assez strict. Hein. La loi prévoit déjà l'interdiction totale et complète des trottinettes électriques ou blablabla, on vous avez compris, hein, tous les instruments de floating sur les trottoirs, sauf si le maire l'autorise. Sachez que les maires ont la possibilité d'autoriser
sais si un maire a autorisé sur les trottoirs ?
Absolument, pour le moment, non. De toute façon, la réglementation va être mise, je crois qu'elle vient tout juste d'être mise en activité là. Elle n'est pas non plus, respectée à la lettre.
J'aime bien l'exception. Enfin, le
y a dire, pas de panneau
c'est,
encore.
C'est
un,
de dire c'est interdit, sauf si vous l'autorisez, parce que du coup, par défaut, ça évite que ce soit le bordel. Et, et si tu as envie, tu peux. C'est à la discrétion de chaque maire et de chaque mairie de voir si c'est pertinent. Donc moi, je trouve ça très bien.
Je continue de rappeler à quel point il est facile de marcher à côté de sa trottinette avec une trottinette électrique. C'est incroyable. Vous pouvez redevenir piéton en quelques secondes. En agglomération, voilà, vous devez circuler sur les pistes cyclables et il est absolument interdit d'aller sur des voies où la vitesse maximale autorisée est au-dessus de 50 km par heure.
Ah, donc tu as le droit de rouler sur la rue comme un vélo, mais c'est pas plus de 50, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est très bien écrit aussi, ça, c'est super.
Tout à fait, ouais. Donc en gros, dès qu'il y a des rues à plus de 50, parce qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout. En revanche, s'il y a le choix, c'est pistes cyclables obligatoires. Okay. Hein. Faites pas les fous. Or, agglomération uniquement sur des pistes cyclables ou voies vertes.
Voilà. Ah, très bien.
Donc si vous êtes en dehors de l'agglomération. Alors là, ce qui va faire très très mal, la trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans.
Ah ouais ?
Bam ! Électrique, tout à fait.
Ah, mais c'est bien, c'est plus responsable, c'est plus. C'est un moyen de te foutre en l'air assez vite quand même.
Et le vélo, ouais. C'est plus dur que pour le vélo. Hein. Le vélo, tu peux rouler à moins de 12 ans, encore heureux. T'apprends à faire du vélo à quoi ? Vous avez pris à quel âge ? 5 ans ? 6 ans ?
Non, très
idée.
Tard, moi.
Ah ouais ?
C'est vrai ?
Nul. J'ai mes petites roulettes jusqu'à 7 ans, je crois.
Oh moi,
bon c'est compliqué.
Je me rappelle, je peux pas te dire comment. Je crois dans les temps, mais...
Le point qui me fait le plus suer, mais je pense que c'est normal, l'assurance civile est obligatoire. À présent pour la trottinette électrique, vous devez être assuré.
Ah, tu dois avoir une responsabilité civile ?
Eh oui.
Bah après, ça c'est en général c'est inclus dans ton,
oui,
dans ton
fait,
appart
ouais.
Dans ton assurance logement.
Ouais,
mais,
je crois que c'est inclus dans l'assurance logement.
Mais
vrai.
Prenez des responsabilités civiles même si vous n'avez pas de logement parce que il y a un jour où ça va vous sauver les miches. Mais
tout à fait. Alors après, il y a tout un chapitre sur les amendes. Sachez que vous pouvez prendre 135€ d'amende hein, si vous circulez sur le trottoir et c'est absolument indiscutable. 1500€ d'amende en cas de dépassement de la vitesse autorisée qui est de 25 km/h.
Alors ah ouais. Ça, incroyable, parce que moi j'ai eu une anecdote où j'ai roulé derrière une trottinette électrique. Donc j'étais en vélo et j'étais un peu énervé. Dans le sens où j'ai vraiment poussé pour le rattraper, le garçon, et je me suis mis derrière pour, dans l'aspiration de sa trottinette. Il m'a dit je suis à 45 km/h.
Alors,
dans le bois de Vincennes, et je me suis dit le mec a un truc qui fait
ouais, je les ai
100
vu,
kilos.
Là. Ouais.
Enfin, c'est un scooter quoi.
Ouais, c'est un scooter. Tout
et
à fait.
Enfin, ça roule aussi vite qu'un scooter électrique. Il n'y a pas de clignotant, pas de machin, pas de plaque, pas de problème.
C'est l'enfer. Bon, sachez que là, 1500 c'est
balles.
25 km/h. Obligatoire. Il ouais. n'y a pas de ma trottinette est puissante, je sais pas quoi, j'ai un mot de ma maman. Non.
Oui.
Toutes les trottinettes doivent avoir un bridage logiciel qui les limite à 25 km/h. Et c'est même pas si tu pousses plus vite, je sais pas, parce que tu vois, le vélo électrique, c'est limité à 25 km/h. L'assistance électrique,
oui.
La plupart du
mais
temps.
Tu peux pédaler
et après,
vite.
Tu peux pédaler ouais. vite. Qu'est-ce qui t'empêche de pédaler vite là, non, tu pousses pas plus vite, il n'y a rien à faire, c'est interdit de dépasser ça. Voilà, l'usage des écouteurs est interdit, c'est comme un vélo, je vous rappelle. Les feux avant et arrière sont obligatoires, le nombre de feux arrière, dont le mien, hein, qui est pété, est absolument inchangeable. Moi, personnellement, vu l'état de mon feu arrière actuellement, je suis obligé de changer de trottinette. Je suis obligé de changer de trottinette.
Ah.
Je ne peux pas le réparer. C'est pas possible.
Bah, mets un, je te filerai mon modèle de petites
ouais,
lupiotes vélo.
Tu peux avoir des petites lupiotes rechargeables.
C'est super.
Amortisseur sonore obligatoire. Le transport de passagers est interdit.
Ouais.
Évidemment. Enfin,
oui, donc en fait, c'est comme toujours, faites pas les fous, quoi.
Bah ouais, mais excite le petit enfant que tu prends avec toi sur le rehausseur, là, pour l'emmener à l'école, ça n'existe pas. Stationnement sur le trottoir va progressivement être encadré, je les vois déjà, les zones de stationnement à trottinette
oui. là,
dans Paris, elles commencent à arriver. Bon après, c'est des réglementations pour le free-floating dont on s'en fout complètement, mais voilà. T'as
du coup,
une...
c'est encadré, mieux encadré,
voilà.
Et toi, t'en penses quoi ? Tu penses que c'est bien ?
Je pense que c'est... pas mal. Après, bon, globalement, c'est comme ça qu'on roulait. Maintenant, je pense qu'il faut faire... Enfin, là, tout est mis dans le même panier. Tu le dis, là, la trottinette que tu as croisée, c'est pas une trottinette,
c'est un vrai scooter
électrique. C'est juste que t'as pas de siège assis. Il y a un moment, tu vois, c'est un peu comme dans la catégorie des fameux scooters électriques où t'as qui sont assimilés à des 50, assimilés à des 125, assimilés à des cylindrés au-dessus en fonction de la puissance délivrée, en tout cas,
je pense qu'il faudrait
par la batterie.
Plusieurs paliers de trottinettes électriques.
Je pense qu'il faudrait plusieurs paliers de trottinettes électriques, oui. Pour qu'il y en ait qui soient considérés comme des, voilà, objets des véhicules motorisés un peu plus puissants. Et à ce moment-là, il faudrait une assurance personnelle pour le véhicule, comme un scooter.
C'est un peu comme en Suisse, je crois. En Suisse, tu as le droit d'avoir des vélos assistance électrique qui vont plus vite que 25 km/h, mais il faut que tu aies une petite plaque derrière. Et c'est considéré comme un... je sais plus, c'est un super vélo, et en gros, il faut que tu aies un casque adapté, que tu sois assuré, que tu aies tout, mais tu peux rouler plus vite que 25.
25 km/h, ça peut paraître peu. Connaissez-vous la vitesse de déplacement moyen en ville, en tout cas en région parisienne ?
Des voitures ?
N'importe quel véhicule, n'importe quelle voiture.
16 km/h.
16 ?
16, t'es un tout petit peu pessimiste.
Ah, moi, j'aurais dit 30.
30 ?
Ouais.
Oh,
c'est très optimiste.
C'est 19,5.
Ah ouais. C'est pas beaucoup.
19,5. Donc
tous les vélos vont plus vite.
Voilà.
Hein, ouais.
Vous vous déplacez en voiture en région parisienne, vous vous déplacez en moyenne à 19,5 km/h.
C'est
tous
fou.
Les vélos, toutes les trottinettes, tous les transports individuels vont plus vite que vos bagnoles. Tous.
Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, en région parisienne, bien sûr. Mais même en région, oui. Même en région comment marseillaise ou en région lilloise, c'est exactement pareil. Ça devrait les mêmes temps de trajet à cause des mouches. Voilà, en tout cas, pour ces nouvelles réglementations. Voilà, tâchez évidemment de les respecter. Je vais aller refaire mon feu. Merci, Victor. On va enchaîner avec la deuxième chronique. Et ça gribouille sur son cahier, c'est toi, Chloé.
Moi, je suis très studieuse, mais j'ai cru entendre le doux bruit des pizzas.
Ah, c'est possible, effet. C'est possible. Doux bruit, douce odeur aussi. Hein. Mm-hmm. Doit avoir de l'odorat si t'es pas covidé. Sûrement, t'as de l'odorat. Très bien. On va parler dans quelques instants, en tout cas, des caravanes.
Oui.
Oh, la caravane.
La chronique la plus sexy de la Terre.
Juste après, un petit jingle. Et on va parler tout de suite dans la deuxième chronique de caravane avec toi, Chloé. Formidable, tu vas nous dire toute la passion que tu as pour ce magnifique objet. C'est parti.
La caravane. Je suis très contente de faire cette chronique parce que je suis sûre que vous ne m'attendiez pas sur la caravane.
Non.
Est-ce que vous avez déjà voyagé en caravane?
Oui.
Ah ouais? Ah bah oui. Avec tes grands-parents, du coup.
Ah non, bah pas.
Ah alors, j'ai besoin de faire le tour de table pour savoir ton expérience de caravane.
Alors, mon petit frère avait aménagé un combi en caravane totalement vivable. Et on avait fait...
Mais du coup, c'est pas une caravane.
Ah bah, je suis désolé, c'est quoi pour toi une caravane?
Il faut que ce soit une remorque à proprement parler.
Ah, c'est forcément
une remorque. Un combi, c'est un moteur. Une caravane n'a pas de moteur.
Ah,
une caravane est tractée.
Ah, tu parles pas du camping-car, toi.
Mais non, c'est pour ça que je parle vraiment d'une caravane.
Ah ouais, j'ai fait que du camping-car, excuse-moi.
Voilà, c'est pour ça que je voudrais vraiment parler de la caravane.
Ah mais c'est parfait, comme ça je montre à quel point je suis complètement décalé.
Et toi, Victor?
Moi, j'ai déjà dormi dans une caravane chez quelqu'un, mais qui était parqué dans son jardin, mais je n'ai jamais voyagé en caravane.
Mais c'est pareil que le camping-car.
Alors, pas du tout.
Alors, pas du tout. Alors, explique-nous tout.
Alors... Je vais pas vous faire la différence caravane-camping-car, parce que ça, c'est l'objet d'une autre chronique, je pense.
D'accord.
Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même esprit, la même philosophie de vie. Donc j'aimerais te reprendre là-dessus, vraiment. Fais attention à ce que tu dis, parce que c'est très important.
Je ne demande qu'à apprendre.
Mais oui. La caravane, donc, effectivement, c'est tracté. C'est une remorque dans laquelle tu habites, en fait. Et il te faut donc une voiture à côté pour la tracter, normalement.
Ok.
Moi, j'ai toujours fait de la caravane. Mes parents, mes grands-parents, on partait toujours en caravane. On est passé ensuite au camping-car, puisque c'était l'évolution un peu naturelle. Mais j'ai découvert les vacances en caravane. Donc je suis vraiment la pro de la caravane, autant en itinérant, c'est-à-dire où tu ne restes que quelques jours au même endroit, que parqué dans un camping pendant un mois. Donc vraiment, c'est ma vie, c'est ma passion. Je n'ai pas du tout honte de mon passif de caravaneuse.
Et donc je voulais pour toi, vous en parler vacances un peu. Égale caravane, ouais. Et caravane égale vacances.
Ouais, complètement. Je n'ai pas découvert de vacances sans caravane avant mes 16 ans.
C'est à la fois très surprenant et extraordinaire.
Bah, c'est parce que je pense qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Donc du coup, forcément, c'est le moyen de partir en vacances le plus intéressant niveau rapport qualité-prix. Et du coup, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler post-Covid, puisqu'on est au mois de juillet. En pleine grande vacances, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas partir à l'étranger parce que c'est compliqué cet été, et qui du coup se rabattent sur d'autres moyens de partir en vacances. Donc bien sûr, tu peux partir en hôtel, mais la solution du camping et de la caravane est là. La caravane, je vais vous faire un rapide historique, mais en même temps, Victor nous a bien raconté, puisque ça va exactement dans le sens du voyage et du tourisme à grande échelle, c'est que c'est né vraiment pour le Front populaire avec les congés payés en 1936, ça a explosé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un peu redescendu le marché de la caravane dans les années 80, puisque le camping-car est arrivé et que la mode se fait plus sur le camping-car actuellement. Donc le camping-car, on est d'accord que c'est avec le moteur, c'est un...
Bah ouais, c'est tout ensemble.
Voilà.
Tout
intégré. Sauf que du coup, qui dit pas de moteur pour la caravane, dit beaucoup plus économique. Aujourd'hui, tu peux acheter une caravane neuve à partir de 5000 euros. Tu peux retrouver une caravane d'occasion pour 1000 euros. C'est vraiment... Alors,
tu peux acheter une caravane neuve pour 5000 euros.
Ouais, ouais. C'est vraiment pas cher la caravane parce que t'as pas de moteur. Donc c'est juste une remorque, c'est un essieu. Avec,
ça n'a rien à voir avec le prix d'un camping-car.
Un camping-car, c'est 35 000 euros les premiers prix, je pense. Ouais, les premiers prix.
D'accord, donc en fait, tu peux, sous couvert de ne pas avoir une Twingo, parce que tracter une caravane en Twingo, ça va pas être évident. Mais pour tout le respect que j'ai pour les Twingo et t'as ces deux.
Eh ben écoute, tu fais une parfaite transition.
C'est vrai.
Parce que c'est pas parce que j'ai un passif de caravane que la... enfin, de mon enfance que la caravane n'existe plus pour moi. Et je me suis vraiment reposé la question aujourd'hui, enfin, pour faire cette chronique, de se dire c'est quoi la caravane aujourd'hui ? Parce que moi je l'ai laissée quand j'avais 16 ans pour voyager de mes propres ailes. Mais ça n'a pas disparu la caravane.
Moi j'ai une réponse à ça.
Ah, vas-y.
Une caravane, c'est un truc que tu trouves derrière un Nissan Qashqai.
Eh ben. Non, pas forcément. Et justement, je me suis dit, est-ce qu'avec ma C1, je pourrais avoir une caravane ? Là, vous allez me dire, bah non.
Bah si.
Eh ben ouais.
Mais ça doit être une toute petite caravane, parce qu'il faut que tu tractes moins que le poids de ton véhicule,
c'est ça ? Exactement. Alors là, on va rentrer dans les données techniques. L'intérêt de la caravane, comme je vous dis, c'est que c'est pas cher. Bon, bien sûr, il y a des caravanes très chères, hein, mais comme il y a des... Enfin, la caravane de base qu'on connaît, elle est pas très chère. Et... pourquoi c'est ma passion encore maintenant, et je pense que ça a forgé toute ma personnalité de voyager en caravane, c'est que j'aime les choses utiles et bien pensées. Et les caravanes, si vous avez eu l'occasion de monter soit dans un camping-car, soit dans une caravane, puisque les aménagements sont sensiblement les mêmes, c'est les choses les mieux pensées de la Terre.
C'est mieux aménagé qu'un studio parisien.
Exactement.
De ouf.
Tout doit être pensé pour être léger, pour pouvoir voyager sans qu'il y ait de casse. Pour pouvoir tenir à plein dedans. Nous, on avait une caravane à 5 quand même, donc du coup, il fallait quand même gérer 5 personnes dans une caravane. Et tout est hyper bien pensé, chaque recoin peut servir. Ta table est aussi ta banquette pour dormir, mais aussi tes rangements, enfin, il y a de tout. C'est vraiment, moi, j'ai une passion pour les aménagements de caravane, et ça m'a énormément servi, puisque mon père étant très bricoleur et fan de caravane, tous mes appartements parisiens de 10 mètres carrés ont été aménagés comme des caravanes. Donc c'est magique. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien à la base. Il faut savoir que, du coup, les aménagements de caravanes, souvent, c'est par des architectes d'intérieur, en fait. C'est des vraies prouesses technologiques d'arriver à mettre sur un essieu d'1m90 et de 4 mètres de long de quoi vivre et de quoi loger jusqu'à 6 personnes, parfois. Donc, je me suis vraiment intéressée à la caravane comme objet d'innovation technologique et que je trouve fascinante encore maintenant. Et j'ai été encore agréablement surprise en faisant cette chronique, puisqu'il y a une... pléthore d'offres de caravanes géniales, dont celle que je cherche pour moi, les mini caravanes.
Dis-moi le modèle de la caravane. Je suis actuellement sur Google en train de mater les caravanes.
Il y en a tellement, tu n'imagines pas, il y en a tellement. Alors en France, on est un tout petit peu à la bourre, c'est quand même beaucoup les États-Unis et le Canada. Parce que, alors il faut savoir, la différence aussi avec un camping-car, c'est que ta caravane, ça va être, le prix va être différent en fonction du poids de la caravane, puisqu'au-delà d'un certain poids, tu dois immatriculer ton véhicule et changer et passer un nouveau permis.
Oui, il faut un permis.
Il faut un permis spécial. Permis
remorque. J'ai une ligne permis remorque, permis caravane sur mon permis.
Ouais,
sur
comment mon t'as fait?
Tu as le permis remorque?
Bah, j'ai refait un nouveau permis, tu sais. Le nouveau permis est plastifié. Il te montre bien toutes les lignes et tout avec les carrés et tout. Donc moi, j'ai pas le droit de.
Moi non plus. Il faut repasser un permis, mais c'est assez simple. Hein, mais il faut juste. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de. Du coup, moi, j'ai appris aussi à faire la conduite accompagnée sur une voiture avec une caravane.
Oui, c'est pour les manœuvres, c'est compliqué.
Avec le contre-braquage, les trucs comme ça, c'est très drôle à faire.
Moi, j'ai les remorques, j'ai l'habitude. Ça doit être pareil, non ?
Oui, oui. Mais sauf que t'as un peu moins de visibilité, puisque en général, c'est assez haut.
Très légèrement. Voilà. Je pense que tu te rends mal dans ta remorque.
Et nous, on était au top de la technologie, parce que mon père avait acheté ces éléments que tu viens clipser par-dessus tes rétroviseurs pour avoir des doubles rétroviseurs pour voir l'arrière de la caravane. Swag.
C'est incroyable.
C'était fou. Mais c'est aussi avec les caravanes que j'ai eu tous mes accidents de voiture.
Tous. Et ben, au nombre de.
J'ai eu deux gros accidents de voiture en caravane, dont un pneu de caravane qui a explosé sur l'autoroute.
Horrible.
Alors non, parce qu'on avait un stabilisateur, car vraiment, on était hyper équipés.
Alors, explique ce que c'est, les stabilisateurs.
Un stabilisateur, c'est entre... comment dire ? Vous voyez comment c'est une caravane ? Ça se met sur la boule de la voiture à l'arrière, et c'est une sorte de triangle. Et le stabilisateur vient vraiment stabiliser, du coup, cette partie-là, pour que, du coup, si jamais ta caravane se renverse, ta voiture ne se renverse pas, par exemple.
Ok.
Et mon deuxième gros accident, c'était avec la vieille caravane de mes grands-parents, et la caravane... et tout simplement sorti des essieux.
La base, ça arrive tellement.
Okay. Et donc il y avait beaucoup d'étincelles dans les rétroviseurs et je m'inquiétais un peu et mon grand-père ne savait plus très bien conduire et j'étais là, est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de choses derrière nous ? Et en fait c'est juste qu'il n'y avait plus d'essieux. Donc c'était rigolo, on était directement sur le bitume sans les roues. Donc voilà, des grandes aventures les caravanes. Mais bref, parlons un peu des caravanes de 2020. Si moi, ça me passionne du coup les mini-caravanes, c'est que la C1, a priori je pourrais en avoir une avec. Ma voiture fait 800 kilos Et y a, effectivement, il ne faut jamais que ta remorque soit plus lourde que ta voiture. Donc, il fallait que je trouve une caravane de moins de 800 kilos.
Est-ce seulement possible ?
Bien sûr, c'est largement possible. Et vous allez halluciner avec moi. Est-ce que vous êtes prêts ?
Je suis chaud.
Donc, comme je disais, énormément de modèles, mais je vais vous lister mes préférés. Et alors, big up le Made in France, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits Made in France, pas trop cher, et notamment une où c'est une femme qui a la tête de ça. Donc je suis très contente.
Ça m'étonne pas.
Ça dis-moi. S'appelle la My Drop. La My Drop de...
C'est pas un nom très français.
100 Miles, la marque. Et en fait, c'est parce que la caravane, l'historique de la caravane, c'est aussi beaucoup aux États-Unis. Et on a ce qu'on appelle les teardrops. C'est des toutes petites caravanes en forme de
gouttes d'eau.
Ouais, toutes petites. Et donc, du coup, cette jeune fille dans le Tarn a décidé de reprendre ça. Et donc, elle a créé la My Drop. Alors, pour vous dire, elle pèse moins de 700 kilos. Elle mesure 4,35 m de long et 1,90 m de large.
Je suis actuellement sur le site. Ça elle me est belle, fait rêver hein. De
alors,
ouf.
Je vous posterai les photos parce qu'elles sont, elles sont vraiment belles en plus d'être hyper pratiques. Donc, ça veut dire que ça, c'est une petite caravane pas très lourde. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait de caravaning, il ne faut pas s'attendre à avoir du grand luxe. En général, tu n'as pas de sanitaire, mais parce qu'en général, tu es stocké sur soit des aires d'autoroute, soit des campings. Mais dans la My Drop, par exemple, tu as un espèce de coffre arrière avec toute ta cuisine et du frigo et des plaques. Wow. Et l'intérieur. C'est un lit de place pas très grand et pas très large, mais on n'a pas besoin de plus que ça. Il y a certaines caravanes, toutes petites caravanes, qui ont quand même réussi à caser des toilettes, donc ça c'est très bien. La My Drop, en tout cas, il n'y en a pas.
Excuse-moi, je suis en train de regarder les images.
Elle est très belle. Hein.
Ça ressemble à une espèce de vieille deux chevaux dans l'inspiration de le rond en rouge. Ça fait une coccinelle, ça irait très bien avec ta voiture.
Mais oui, elles sont magnifiques. Sachez que la My Drop coûte 14 000 euros. Et c'est tout. Non, c'est pas
pardon,
très
on est,
cher.
On est plus du tout
coup.
Dans les prix que tu nous avais indiqué là. C'est trois fois
c'est
plus
beaucoup
cher.
Moins cher qu'un camping-car. Et puis il faut savoir que si tu arrives à faire un peu d'itinérant, tu vois, tu payes pas cher.
C'est beaucoup plus petit que les 5000 euros dont tu nous avais dit avant.
Non, pas forcément, parce que les 5000 euros c'est quand même pas des grandes caravanes. Puis c'est beaucoup plus stylé surtout. Et surtout l'intérêt des mini-caravanes, c'est que tu peux passer dans les parkings. Tu peux du coup aller sur des emplacements qui ne sont pas accessibles aux camping-cars ou aux grosses caravanes. Tu peux la stocker chez toi parce qu'il faut se dire qu'en général, une caravane, c'est très chaud parce que tu l'utilises que l'été. Et du coup, il faut que tu la stockes en attendant et qu'en général, une caravane, ça fait plus de 2 mètres de haut. Donc, ce n'est pas très pratique.
Dans ton salon.
Exactement. Là, je pourrais la stocker dans le parking de mon immeuble. Et puis, il faut savoir que c'est du Made in France, fait que de la main-d'œuvre française. Donc, 14 000, ce n'est pas très cher en vrai. On a une teardrop qui s'appelle la Tip Top. Et alors j'adore les noms qu'ils ont en plus. La Tip Top, elle est faite en Bretagne, donc c'est à peu près les mêmes mesures et les mêmes coûts. Il y a l'Astuce Cab. Alors l'Astuce Cab, c'est moins joli que ta teardrop. C'est une espèce de mini remorque caravane qui, attention, ne pèse que 350 kg. Et on est à partir de 8000 euros à peu près. Donc c'est assez intéressant.
La Tip Top. Elle est
c'est prodigieux.
Chamée elle est au mignonne, niveau hein. Du design.
On dirait un petit cube.
C'est...
Mais on est d'accord que Victor rentre pas à l'intérieur.
Non mais moi je rentre nulle part. Hein.
Bah
c'est,
ouais, c'est un peu compliqué pour Victor. Mais après tu vois tu peux avoir aussi une petite tente à côté, un auvent de seconde et puis tu fais ta vie. Tu peux aussi dormir à la Belle Étoile. Tu peux avoir plein de trucs.
Alors, évidemment pour tous ceux qui nous écoutent, hein, ça n'est pas parce que Victor est en surpoids que je dis ça. C'est juste qu'il mesure 1m90
c'est
et
vrai.
Que rentrer dans une goutte d'eau combien de hauteur tu nous as dit
2 mètres roue incluse, donc du coup je pense 1m87, en...
mais de toute façon tu tiens pas debout. Hein. Enfin, il y en a peu où tu tiens debout.
Ouais. Oui,
oui. Ouais, là tu peux pas.
Mais pour les hobbits comme moi, ça va.
Ouais, c'est trop mais bien.
J'ai toujours dit qu'il y avait un avantage certain des gens de petite taille pour le voyage, parce que ce soit dans les transports,
les avions,
dans une voiture ou dans une caravane, ton format compact est tout à fait adapté.
Et alors, ça, Ken, ça va te plaire, mais d'un point de vue écologique, les mini-caravanes, c'est bien, puisque du coup, vu qu'elles sont basses et petites et légères, ta consommation d'essence est peu. Elle augmente peu, contrairement à des énormes caravanes avec une prise au vent énorme. Donc,
Ouais, après. Bon, finis ta chronique et j'en parle après.
Ok, on a une autre innovation technologique où j'espère que vous allez tous pouvoir regarder, qui s'appelle la Bower. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est écrit comme Beau Belle, ER. Et c'est ce qu'on appelle une caravane télescopique. Elle est toute ronde. Quand elle est fermée, elle fait moins de 2 mètres de large et 3,50 mètres de long, ce qui est minuscule.
Wow.
Et elle multiplie par 3 sa surface en se s'ouvrant comme des gigognes.
J'ai vu ça, c'est incroyable.
Et donc elle passe de 4 mètres carrés à 12 mètres carrés.
On dirait les bases martiennes.
Elle
tu
est
sais,
magnifique.
Genre c'est Matt Damon, il arrive.
Elle est toute ronde, magnifique. Ça donne envie d'aller dessus en fait, dedans. Alors,
coupe le son, Verdier, coupe le son.
elle est un petit peu plus lourde, elle fait 1000 kilos. Donc là, c'est loupé pour moi.
Aïe.
Et elle coûte 30 000 euros. Mais elle est
Est-ce que si tu laisses ta voiture de 200 kilos, c'est-à-dire que tu mets 2 mois à, sur les places arrière, tu as le droit non, ou pas?
Oui, mais ça, c'est la question du poids chargé PTAC ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Ah. Donc ça, c'est marqué sur ta carte grise, en fait.
Okay.
Et moi, par exemple, ma voiture fait 800 kilos et je crois que mon PTAC, c'est 1200 kilos. Donc je peux avoir des gens très lourds à l'arrière, par exemple. Donc celle-ci, elle est magnifique, mais un peu chère et du coup, ça ne marche pas pour moi. Il y a la Hitch Hotel. Hitch, comme faire comme du hitchhiking. Alors ça, bon, c'est très mignon, mais c'est plus pour moi, c'est plus de mon âge. C'est comme une mini remorque juste pour dormir, toute petite, télescopique. C'est limite la taille d'un gros porte-vélo. Donc c'est très bizarre, mais pourquoi pas.
Est-ce que tu peux mettre des vélos sur ta caravane?
Oui, puisque souvent, et là j'y viens, tu as tout ce qui est caravane pliante. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que les caravanes, il y a en gros trois types de caravanes. 80% du marché de la caravane, c'est la caravane normale, un cube avec le, où tu rentres directement. Tu as donc ensuite la caravane... comment on appelle ça ? Capucine, c'est-à-dire qu'une partie de la caravane passe dessus de ta voiture et donc il y a une attache au-dessus de ta voiture. Ça se fait plus trop parce que c'était assez compliqué au niveau de l'habitacle de la voiture. Okay. Et puis, tu as les caravanes pliantes. Alors, soit pliantes en dur, soit pliantes en tente. C'est-à-dire que c'est une remorque qui va s'ouvrir avec des murs en dur ou alors avec des murs en tente. Okay. Et donc, dans les mini-caravanes, il y a bien évidemment les mini-caravanes pliantes parce que là, on est vraiment sur une remorque qui est très basse.
Ça ne doit pas coûter cher, ça.
Ça coûte... Non, ça dépend. Et qui, du coup, se déploie en tente. Et maintenant, ça se déploie hyper bien. Ça te fait énormément de place. Il y en a une qui s'appelle la caravane pliante tente opéra, je crois, d'une société qui s'appelle Ysen, Y-S-E-N. Et en fait, ils ont repris l'esthétique de l'opéra de... de Sydney.
Oula.
Et donc, du coup, c'est une tente blanche, comme ça, avec la même forme que l'opéra de Sydney. C'est absolument magnifique. Il y a des sanitaires, il y a une douche, c'est assez
hallucinant. C'est comme les tentes dans Harry Potter, quoi. Exactement. Tu déploies le truc et c'est trois fois la surface.
Et là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt par rapport à une grande tente? C'est que du coup, tu as une base en dur surélevée. Et ça, c'est important quand tu fais du camping. Du sol. Parce que tu as très froid, sinon.
Ouais, mais le confort que tu gagnes.
Et alors, mais les deux dernières dont je vous parlerai sont un peu mes petites chouchoutes. Il y a la Tipoun. Tous ces noms. Déjà, je vous aime pour avoir ces noms. Tipoun, elle est fabriquée en Vendée. Et elle est toute petite, elle fait 1,70 m par 1,70 m. Et pareil, c'est aussi une mini caravane télescopique où tout se ouvre avec des vérins hydrauliques. L'intérieur est absolument dingue, mais elle coûte 25 000 euros. Donc là, on est quand même sur du budget un peu luxe.
Elle est canon.
Elle est magnifique, la Tipoun. Et ma petite préférée qui est américaine, qui s'appelle la Hearst Traveler, les voyageurs de la Terre. C'est une caravane toute petite qui a été créée par une femme. Et qui s'est dit, j'ai une Fiat 500, j'ai envie de pouvoir...
Elle est américaine, elle a une Fiat 500.
Ouais, très étonnant. Et du coup, elle s'est dit, il faut que ça soit très léger. Et cette caravane est faite... Alors, il y a une version carbone, du coup, c'est un peu cher, qui pèse. Alors, combien pèse, à votre avis, la version carbone uniquement? C'est une caravane, on peut dormir à deux, elle se déploie.
Je dirais 200 kilos.
200 kilos et...
500 kilos.
98 kilos.
98 kilos.
98 kilos. Donc, c'est quand même génial. Et par contre, la version un peu moins chère, c'est carbone mélangé à, accrochez-vous, de la plume de poulet.
Ah ouais.
Parce que du coup, il y a un isolant de dingue. Et ça reste très léger. Et du coup, c'est assez facile à se procurer de la plume de poulet. Et celle-ci, en plume de poulet, j'ai pas le poids. Mais elle ne coûte que 8000 euros. Donc 8000 euros, c'est bien.
Elle est gavée du coup d'ouverture, c'est pas vitrée, mais transparente pour observer ton environnement. Ouais.
C'est trop bien,
à droite,
en plus, c'est
une
espèce de capot qui se déplie avec une grande moustiquaire. Là, je pense que je tiens debout, tu vois,
par
exemple.
Je me vois directement parcourir l'Islande dans cette caravane.
Exactement. Et donc,
ça me donne envie, Chloé.
Ben oui, parce que c'est génial, mais du coup, c'est une super transition, Ken, parce que ce qui rebute un peu les gens souvent, c'est qu'en France, c'est un petit peu compliqué de voyager en caravane, puisque tu peux pas vraiment stationner. En vrai, quand tu as un camping-car ou une caravane, tu n'as pas le droit de camper sur des places de stationnement. Tu as le droit de stationner, c'est-à-dire que Les camping-cars, c'est très pratique parce que tu peux stationner et dormir dedans. La caravane, tu ne peux pas décrocher ta caravane et te poser sur une place de stationnement. C'est interdit par la loi. Tu n'as pas le droit de te mettre n'importe où. Tout ce qui est parc, forêt et tout, c'est interdit. Donc, c'est compliqué de faire du camping sauvage, mais c'est quand même possible. Et puis, après, tu peux t'arrêter dans les campings. De mon expérience, et ça sera l'objet d'une chronique, je pense, mais on peut parler du camping. Mais moi, je n'ai jamais connu les campings comme on voit le film Camping, avec des miss camping un peu beauf ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé des campings un peu sauvages, un peu avec juste un sanitaire et des champs. Donc, pour moi, j'ai une vision du camping qui est encore très nature et tout. Donc...
Ah ouais.
S'arrêter dans un camping avec la petite caravane, c'est pas...
Parce que moi, le camping, c'est Chirac, infini. Hein.
Pas du tout.
Chaque fois que j'y vais, c'est ça.
Bah,
J'en reviens de
ce week-end, d'ailleurs. Je ferai une chronique sur le camping, alors.
Et Chirac partout. Hein.
Mais quand tu disais que tu voulais voyager où avec ?
En Islande.
Ouais. Alors, l'Islande, je sais pas, mais il y a énormément de pays qui mettent vraiment le voyage en caravane en avant, notamment toute la Scandinavie.
Trop bien.
Où vraiment, tu peux t'arrêter où tu veux.
Ouais, déjà un peu plus accessible.
Tu peux t'arrêter vraiment où tu veux, donc ça veut dire que tu vas avec ta petite caravane, tu la poses, tu vis ta vie. Faut juste, voilà, tu n'es pas complètement, tu peux pas survivre très longtemps puisque tu as peut-être 40 litres d'eau d'avance dans ta caravane en général. Tu peux avoir un petit réchaud. Il n'y en a pas beaucoup avec des panneaux solaires, on parlait de l'écologie avec les caravanes. Donc c'est encore le seul petit truc qui peut se dire que bon, bah, c'est plus compliqué d'être en caravane qu'en camping-car. Puisque camping-car, tu t'arrêtes sur n'importe quel parking et tu peux vivre ta vie.
Oui, mais c'est moins bucolique et pittoresque. Ils sont quand même beaucoup moins mignons que toutes les caravanes que tu nous as conseillées.
Exactement, vous avez vu comme elles sont belles et design est trop cool. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en préparant cette chronique, je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser au tiny house. J'imagine que vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un peu le même principe. Hein. C'est le principe d'avoir une... Ouais. Tu as une petite maison sur un essieu et le principe, c'est qu'elle puisse être remorquée. Alors, moi... Je vais finir là-dessus. J'en ai rien à battre des tiny houses et je trouve ça nul. Parce que l'intérêt pour moi d'une caravane, c'est justement ce que je vous ai montré. C'est des choses légères, intelligentes, avec des matériaux novateurs. La tiny house, c'est quand même un truc qui pèse 3 tonnes, difficilement bougeable. Là, vraiment, on arrive à 98 kilos sur une caravane.
Ouais.
Donc, c'est très joli, hein, les tiny house. C'est très instagrammable, c'est très Wes Anderson, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux du concret, du pratique, de l'utile. Et donc,
Tu te rends compte que la caravane pèse mon poids, quasi à 5 kilos près, mais tracte un Victor derrière une
et là, je vous ai parlé que des caravanes tractées par des voitures, mais il y a des petites caravanes pour les vélos, spécialement,
trop
dont
bien.
Une qui peut aussi aller sur l'eau et faire mini bateau.
Magnifique.
Mais c'est génial.
Caravane amphibie.
Après, je ne suis pas sûre que ça soit très intéressant, parce que je pense que c'est quand même un peu lourd à tracter à vélo, et donc on en parlera
Tu parlais de trucs à mettre sur l'eau. On a des copains qui sont en train de regarder pour se faire un... Bah là, c'est un van, pour le coup, habité. Sachez que si vous faites du caravaning et des choses comme ça, il existe un kayak pliable en origami.
Mais non.
C'est de l'origami plastique. Ça prend la taille d'un sac de course. Tu le déplies. C'est un kayak qui va sur l'eau, sur une rivière.
Et ben, tu as ça justement dans ta petite voiture, dans ta petite caravane.
Des rapides avec
et
ça.
Du coup, effectivement, tu peux partir avec ta petite caravane derrière ta C1. Et vu que c'est si tu prends la caravane un peu remorque, tu peux mettre aussi tes vélos.
Trop bien.
Donc, vive vendu. Les mini caravanes design partons tous sur les routes de France en caravane.
Merci Chloé, j'ai découvert énormément de choses. Maintenant, si je peux
ajouter mon petit grain de sel,
c'est que tes rêves de caravane en C1 sont magnifiques, somptueux, absolument vraiment génial. Mais soyons honnêtes, j'ai parcouru tous les sites que tu m'as donnés.
Ouais.
Devant les caravanes, il y avait quoi ? Des putain de SUV.
Mais non, mais c'est
dans
pas vrai.
Dans tous les sites.
Je t'ai dit, la Astraverse, c'est une Fiat 500.
Oui, mais c'est pour vendre, parce
non,
que c'est le côté aventureur.
Désolé, il y avait des Nissan Qashqai partout, sur toutes les photos, ou des 4x4 RAV4.
Des Range Rover, là.
Et des Range Rover.
Non.
Et je les parcours, les routes de France.
Je les vois, les Range Rover.
Je suis pas d'accord. Nous, on avait une Nevada qui était très bien. En vrai, en fait, l'intérêt de la caravane, pourquoi c'est économique, c'est que tu n'as pas besoin de te racheter un véhicule en plus. Tu utilises ton véhicule de tous les jours. Ouais. Donc, que tu aies une Nissan Qashqai à la base, le fait d'avoir la caravane ne va pas te faire racheter une voiture en plus. Donc, en plus, tu n'utilises qu'un véhicule pendant toute l'année plutôt que d'avoir ta voiture de week-end, plus ton camping-car. Tu pollues beaucoup moins avec ta petite caravane.
C'est très bien. Je suis convaincu. Moi, j'ai eu cette fascination pour les objets bien faits, pratiques et légers. quand j'ai fait ma préparation pour le bikepacking, là, justement, parce que c'est fou à quel point une tente, ouais. tu peux vraiment faire une tente avec un bout de tissu et trois sardines, ouais. et deux, ouais. arceaux, quoi, parce que... Quand on voyage a fortiori à vélo, le poids, c'est ton ennemi principal, c'est numéro clair. Un. Donc, pas que quand tu roules en séance.
Mais quand tu roules avec tout, oui, parce que ça te poids, double une consommation, c'est quand même, ouais. Le poids.
Mais du coup, tu peux vraiment trouver des petits trucs de voyage et de camping qui sont hyper légers, hyper pratiques, très bien pensés, qui prennent pas de place. Et tout devrait être comme ça, en fait.
Mais oui.
Réutilisable, pas cher, enfin pas cher.
Le fameux couteau fourchette cuillère en une seule fois, ça vient du caravaning.
Je suis client, prends ta mini caravane.
Mais oui.
Et parcours les routes de France avec ta C1. Et si au bout, déjà si t'arrives à parcourir.
Mais bien sûr que j'arriverai.
Sans que ta C1 ne rende l'âme.
Mais si je prends celle à 98 kilos.
Ouais, j'avoue,
c'est comme si je prenais Victor à l'arrière.
C'est quoi, c'est celle à 25 000 euros?
Bon, oui. Mais je pense que celle qui est en plume de poulet, elle monte peut-être à 300 kilos, ça va.
J'avoue, si tu craches, vaut mieux cracher ta C1 que ta caravane, là, du coup, après. Ouais.
Non, mais on a vu qu'il y en avait qui étaient à partir de 8 000 euros.
Achète ta caravane et l'été prochain, pour le commute 2021 sur les voyages, tu nous fais un retour d'expérience sur ta caravane.
Mais vous venez avec moi, surtout.
Mais grave.
T'as de quoi la stocker ?
Non, il faudrait un parking en plus. Cela dit, mon parking est très grand par rapport à ma petite C1, donc il y a peut-être moyen.
Ah,
c'est qu'une remorque, en fait, c'est pas si gros. On va tester.
C'est la largeur. L'autre chose que tu dis et qui est très très vrai, c'est que dans tout ce défi plein de contraintes qu'ont les caravanes, notamment, ouais. de poids, de matériaux, naît souvent les plus grandes innovations. Hein. C'est dans la contrainte, exactement. Que naît l'innovation. Et c'est en tout cas très intéressant. Voilà, vous pouvez vous intéresser vous aussi. La vie en caravane, c'est la vie que Chloé, en tout cas, n'a pas choisi. Elle l'a pas choisi du tout. Hein, ça, parce que c'était comme ça, et puis c'est tout quand elle était jeune. On choisit pas trop sa vie quand on est jeune. Mais en tout cas, celle-là, bien plus. On va passer du coup à la deuxième news. Et c'est toi, Victor, qui va nous faire cette dernière.
Alors, ma news d'aujourd'hui est une news qui m'a beaucoup touché, dans le sens où je suis cycliste et que ça m'a fait une très bonne nouvelle pour moi. Une étude de l'université de Cambridge, donc plus précisément de l'unité d'épidémiologie, a fait une étude à très grande échelle sur l'impact sur la santé du vélo. Vous avez peut-être vu des articles passer avec des titres fort accrocheurs du type les cyclistes qui vont au boulot, enfin les gens qui prennent leur vélo pour aller travailler meurent 25% de moins de cancer et de maladies cardiovasculaires. Et là vous vous dites, c'est pas possible.
Vu le nombre de gaz à échappement qu'ils prennent dans la tête.
Eh ben si. Et non seulement c'est incroyable, mais en plus l'étude. Ça a été un échantillon de 300 000 commuters, 300 000 personnes sur un temps assez long. Le risque de mourir de cancer et de maladies cardiovasculaires, ça baisse de 24% par rapport à la population générale. Et alors là, moi, je me suis dit, en bon élève qui a fait des statistiques, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ils ont pas dû ajuster les stats. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les statistiques, si, par exemple, je vous dis demain que les cadres ont une espérance de vie de 10%, de 10 années supérieure à un ouvrier, vous vous dites peut-être... Ah bah oui, mais c'est sûrement qu'il a un mode de vie bien plus sain, que c'est des meilleures personnes. Non, il y a des choses environnementales qui font que les personnes qui ont des métiers du secteur ouvrier sont plus exposées à des risques qui font que leur
ils meurent au travail.
Oui, ils meurent au travail et ils ont des maladies longues, type cancer, quand ils arrivent à l'âge de la retraite. Là, le truc, c'est que sur les 300 000, ils ont ajusté les études pour gommer la différence, la différence du profil sociologique. C'est-à-dire que les 24%, que vous soyez cadre ou que vous soyez, d'accord. peu importe qui dans l'échelle sociale, vous avez 24% de chance en moins si vous faites du vélo pour aller au boulot. Ce qui est incroyable. Enfin, je veux dire, en termes de santé publique, là, on est post-coronavirus, il y a des pistes partout qui donnent lieu à des gens qui sont mis à aller au boulot, qui sont mis à aller au boulot en vélo alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Ça se trouve, d'ici une 10, 15, 20 ans, on va avoir une baisse très forte, par exemple, des cancers du côlon. Je sais que les cancers qui sont de la région intestine, le vélo et l'activité physique luttent très très fortement contre ça.
Mais non.
C'est trop bien.
Parce que tu bouges, t'actives tes muscles, il y a plein de choses qui sont très très bonnes. Et tout ce qui est maladies cardiovasculaires, diabète, toutes les maladies qui sont liées à la sédentarité, c'est fortement réduit par l'activité physique, et donc le fait de faire du vélo pour aller au boulot, c'est de l'activité physique qui est cachée en fait, puisque c'est juste.
Oui, ça c'est vrai. Ouais.
T'as pas l'impression de faire du sport quand tu vas au boulot en vélo, à part si t'es en haut de Montmartre pour ton travail, mais c'est ou peu importe une côte, peu importe en France. Mais voilà, est-ce que ça vous inspire
Elle est sortie quand ton étude?
Alors, j'ai la date sous les yeux. L'article date du 20 mai 2020, donc ça date de cette année.
En fait, je suis étonnée qu'on n'en ait pas plus entendu parler, sachant que moi, je suis un peu à suivre tout ce qui est sur la mobilité et les vélos. Mais il y a un truc, de toute façon, pardon, j'atteins pas mais dans la mare, mais on voit que là, il y a 7 milliards débloqués pour l'industrie automobile et pas des masses de d'autres milliards débloqués pour le reste des mobilités. Excuse-moi, il y a plus de choses qui sont développées pour l'aviation et l'automobile là, aux sorties du confinement, que pour mettre en avant les vélos ou toutes les autres mobilités.
Bah, c'est parce que c'est pas les mêmes tarifs de production.
Bah oui, mais quand même, il y a une différence avec le train.
On vous a filé 50 balles pour réparer nos vélos et on file 7 milliards à
Renault. Ouais, il y a quand même un truc
pour qu'ils suppriment bizarre.
On donne 500 euros à n'importe qui achète un vélo électrique aujourd'hui. 500 euros, c'est pour certains vélos, c'est limite la moitié du prix du vélo.
Mais déjà, non, mais ça c'est très bien, mais on ne devrait pas s'arrêter, on ne devrait pas être content qu'il y ait 500 euros juste donnés. Ça devrait être. Par exemple, ça fait très peu de temps que dans les entreprises, le fait que tu sois à vélo soit remboursé d'une manière ou d'une autre.
Soit possiblement remboursé, possiblement c'est incitatif, ce n'est absolument pas obligatoire. Voilà.
Alors que ton pass Navigo, bon bah il est remboursé, ou n'importe quelle autre chose, je pense, dans les grandes villes. Et donc, je trouve que ça fait sens, cette news sur les bienfaits du vélo. Et le fait que ça soit pas du coup sur l'ouverture de tous les 20 heures en disant faites du vélo parce que ça va sauver des vies en fait, tout simplement.
Mais d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Crois que j'en ai déjà parlé mais dans Commute, mais le fait que le casque à vélo ne soit pas obligatoire aujourd'hui au niveau de la santé publique, c'est plus intéressant que le casque de vélo ne soit pas obligatoire, parce qu'en fait le fait de mettre un casque, ça ne serait pas incitatif pour les gens à faire du vélo, et que du coup le nombre de morts évitées par maladie de cancer et cardiovasculaire serait plus important de gens qui ne font pas du vélo que de gens qui meurent d'un accident sans casque.
D'accord, d'accord, ok. Je vois complètement le mix-up.
Statistiquement, c'est plus intéressant.
Mais c'est là où tu dis, si c'était un ordinateur qui gérait notre pays, qu'il essayait juste d'optimiser au maximum la vie des gens et la santé publique, Les choix pris seraient terribles.
Il n'y aura plus de tabac, plus d'alcool, plus beaucoup de choses.
Et c'est pas sûr, parce qu'ils calculeraient comment le plaisir humain et le fait de pouvoir se divertir, impactent aussi le fait qu'il y ait moins de dépression chez les gens ou qu'ils gèrent mieux leur stress. Mmh. C'est pas sûr. Pas sûr du tout.
Mais pour revenir sur la mobilité, et j'empiète un peu sur ta news, mais il y a eu aussi une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur l'utilisation de la voiture en ville, où
non, ça, c'est une
80% du temps la voiture est immobile, 30% du temps où elle n'est pas immobile, c'est que pour trouver une place, et que c'est une voiture 4 à 5 places est utilisée en moyenne par 1,5 personnes.
J'ai retweeté ça sur mon. Donc, mais c'était même à l'échelle
posons-nous
européenne.
Posons-nous des questions sur à quel point tu peux aider l'industrie automobile après de telles études. En fait, moi, c'est ça que je comprends. Pas,
c'est
quoi.
Ça.
Est-ce que c'est juste pour sauver l'industrie française et avoir quelque chose pour redorer le blason de la France, peut-être?
Oui, mais il faudrait mieux accompagner, il faudrait mieux mettre 7 milliards pour aider à muter les personnes. Parce que là, tu vois, par exemple, je sais que Renault, ils sont en train de réfléchir à fermer le site de production des châssis aluminium de Alpine en Seine-et-Marne.
Ouais.
C'est une catastrophe, pas parce que j'aime beaucoup les Alpines, même si c'est le cas, mais le savoir-faire et les compétences des employés qui sont sur ce site, si on perd ça,
c'est unique.
C'est dur, ouais. Quoi. Genre,
mais, sauf s'ils ont 7 milliards. Normalement, ils ne peuvent pas les...
Bah, non, mais ils ont quand même fermé les usines. Bref.
Ouais, bref, voilà ce qu'on en pense, quoi.
Et pour compléter ton chiffre, donc c'est la voiture européenne typique, elle est garée 92% du temps. Le quart du temps conduit, c'est pour chercher une place de stationnement.
C'est ça.
Ouais.
Et 86% de l'essence
ne sert à rien.
N'atteint pas les roues.
Ah ouais.
Avec l'essence et le moteur donc thermique,
ouais,
tel qu'on l'utilise, 80% de l'essence brûlée, de l'énergie produite par l'essence brûlée,
n'atteint jamais
les roues. C'est que de la perte. Enfin, c'est le rendement.
On en a déjà parlé dans l'épisode de la pollution, mais une voiture électrique, par exemple, c'est bien plus efficace.
C'est ce que je vous dis, mais le rendement des voitures électriques est de 50%.
Ouais.
Et le véhicule qui a le meilleur rendement au monde, c'est le vélo. Il n'y a pas meilleur rendement au monde que le vélo en termes d'énergie investie et d'énergie rendue sur la route. Il n'y a rien.
Le lobby du vélo.
Absolument. Après, évidemment, ça ne va pas à 130 km par heure. Mais. Commence pas, hein!
Ah, si. Voilà, donc j'ai bien abusé sur mon temps de parole pour
non, mais c'est bien, ça détend un peu l'atmosphère, qu'on se fout un peu sur la gueule sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Allez, on va clôturer tout ça avec ma dernière chronique, hein, si vous le voulez bien. Et moi, je vais vous envoyer dans l'espace.
Et l'écologie.
En ces périodes de fermeture des frontières de la planète, il existe un pays ouvert à tous. Un pays régi par la seule règle de la gravitation universelle. Ce pays, c'est l'espace.
Waouh!
Formidable, n'est-ce pas?
Formidable. Fait rêver.
Il est évidemment un peu dur de se rendre dans l'espace. Hein. C'est vrai que plus facile de se déplacer sur n'importe quel endroit à la surface de la Terre. À la surface de la Terre. Que, évidemment, de se rendre dans l'espace. Ajoutez à ça qu'il y a quelques problèmes. Bon, il n'y a pas d'air, pas d'eau, pas de nourriture, pas d'atmosphère viable. C'est vrai que ça n'a pas l'air très accueillant comme ça, l'espace de prime abord. Je dois vous avouer que
Brest, c'était quand même vachement mieux.
Moi, c'est un peu plus respirable, on va dire, de manière générale. Et pourtant, malgré toutes ces contraintes au début des années 2000, le tourisme spatial a été un moyen de financer certaines expéditions scientifiques dans l'espace. C'est notamment l'agence spatiale russe, suite à un déficit énorme de leur budget spatial, qui ont commencé à lancer tout simplement des programmes de visites touristiques de l'espace dès 2001. Alors le souci, c'est que d'envoyer quelqu'un dans l'espace, alors notamment dans la Station Spatiale Internationale, hein, l'ISS, International Space Station, en anglais bien sûr, nécessite un sacré entraînement pour même le touriste qui doit subir 2-3 semaines de formation bien intensif, quand même une condition physique qui n'est pas négligeable pour se rendre là-bas et pour juste vivre dans les conditions de la Station Spatiale Internationale, puisque ne serait-ce que se nourrir, à faire ses besoins, se nettoyer, c'est une vie totalement différente de ce qu'on connaît ici. Et le billet d'entrée est un tout petit peu élevé. D'après vous, le billet d'entrée pour...
C'est pas un million ?
La Station Spatiale Internationale, 1 million ?
Ouais.
Un million, Victor ?
J'ai un petit million.
Ça fait quelques caravanes, je pense.
Quelques caravanes ?
En équivalent caravane, on est... Moi, je dirais... Vraiment, pour aller à la Station Spatiale Internationale ou juste pour avoir un ticket
séjour dans la Station Spatiale Internationale par l'agence spatiale russe. En dollars. Arrondi à l'euro près.
Aïe. J'espère que je vais gagner.
On a 1 million ici, Victor.
Moi, je dirais une dizaine de millions d'euros.
Une dizaine de millions. Eh bien, c'est entre 25 et 30 millions de dollars.
Ah ouais, oh, ok. J'étais loin, ok.
À ce jour, 9 personnes ont fait cette expérience.
C'est vrai.
Du voyage dans l'espace.
J'ai eu 9 touristes de l'espace.
9 touristes de l'espace. Tout à fait.
Est-ce que ça a renfloué le budget du coup des Russes ?
Eh bien, ça leur a permis en tout cas de pouvoir s'y rendre et de pouvoir envoyer des scientifiques dans l'espace.
C'était que des Russes ou c'était des gens de différentes
nationalités ? Non, le premier touriste, il n'était pas
américain.
Non, c'était un investisseur américain, il me semble, vieil investisseur américain. Mais des gens qui sont pas forcément très très connus d'ailleurs, mais
qui ont beaucoup d'argent.
qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient placés assez fort sur les listes d'attente.
D'accord.
En 2009, la Station Spatiale Internationale a restreint le nombre de personnes qui pouvaient se trouver dans la Station Spatiale Internationale. Ah. Et le tourisme spatial est devenu ni plus ni moins que impossible.
Ah ouais.
Vous
ne
pouvez plus envoyer des gens... Étant donné qu'il n'y a pas d'hôtel et encore dans l'espace, il n'y a pas de moyen de stockage d'un être humain en fait, dans l'espace. On pourrait le mettre en orbite géostationnaire dans une combinaison spatiale, attendre qu'il fasse le tour de la Terre et le reprendre. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment possible, puisque je sais pas, peut-être qu'il mourrait des radiations, faire attention au soleil, tout ça. L'espace est hostile hein, quand même, hein, vous savez.
Mais est-ce que tu ne peux pas juste le mettre dans une fusée et ensuite redescendre juste pour avoir le bonheur de voir la Terre ? Est-ce que c'est pas ça dont on rêve ? Moi, je m'en fiche d'aller faire caca dans la Station Spatiale Internationale. J'ai envie de voir la Terre depuis pas la Terre.
Bah, le problème, c'est le problème, pas forcément l'aller, après, c'est le voyage de retour. C'est qu'il faut revenir sur Terre.
Ouais, mais t'es pas dans les petites capsules qui prennent feu, là, et qui plongent dans l'eau avec un petit parachute. Hein. Tu sais, là, comme dans les films.
C'est magnifiquement simple, n'est-ce pas, de voyager dans l'espace. Si traverser l'atmosphère était aussi facile, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Une autre solution est de participer à des vols suborbitaux. Alors ça, c'est peut-être plus ce que tu pourrais faire. Voir la planète de très, 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 très haut et admirer quand même vue de la planète.
Bah, t'es pas assez loin.
100 km au-dessus du niveau de la mer, on est quand même bien. Suborbital, c'est vraiment très, très bien.
Est-ce que c'est les voyages où tu peux avoir l'impression d'être sans gravité ?
Alors, c'est un peu autre chose. Les voyages où on est sans gravité, on n'a pas forcément besoin d'être suborbital. Il suffit juste de simuler la chute libre d'un avion pendant quelques secondes.
Confondais avec ça, c'est pour ça que ça me semblait bizarre de voir la Terre.
Mais on va avoir cet effet-là aussi dans le voyage suborbital, parce que le principe du voyage suborbital, c'est donc d'envoyer Alors, c'est pas un avion, on va plus parler d'aéronef, du coup, puisque un avion fonctionne soit à hélice, soit à réaction. Il faut savoir qu'à partir de 100 km, même avant de 100 km d'altitude, il n'y a plus assez d'oxygène pour faire fonctionner le moteur à réaction. Et donc on ne peut plus brûler de carburant. Donc pour brûler du carburant, il faut utiliser de l'oxygène liquide, des combustibles, des mélanges de kérosène, des trucs très compliqués pour pouvoir justement produire cet effet de combustion. Donc on va se rapprocher forcément des mécanismes qu'on trouve dans des fusées très, très avancées. Donc là, il y avait... alors vous avez probablement entendu parler de cette compagnie Virgin, hein, qui a lancé Virgin Galactic. Vous savez, les Virgin Megastore, hein, c'était eux aussi. Ils ont tous fermé.
Quand on était jeunes.
Quand on était jeunes, c'est ça.
On a acheté nos CD.
Ah, ils éditaient des jeux vidéo aussi, Virgin, chez nous, j'avoue. À partir de 2005, ils permettaient d'effectuer des vols à bord d'un aéronef spécial créé pour l'occasion. Donc voilà, à cause du manque d'oxygène, comme je dis, il faut vraiment des turbines et des moteurs très spéciaux pour pouvoir atteindre 100 km d'altitude. Des conditions de pression très très différentes, évidemment. Et aussi, il faut que les avions puissent résister au froid qui est gigantesque arrivé à une certaine altitude. Donc vraiment, tu ne peux pas prendre un avion conventionnel, un avion classique pour faire ce genre de voyage. C'est donc très, très compliqué. Il faut quand même 3 jours d'entraînement.
Ah oui, quand même.
Ouais, pour profiter d'un petit voyage suborbital.
Parce que tu subis de la gravité.
Exactement. Il y a un changement de gravité. Il doit y avoir sûrement des conditions de pression. Et en gros, le vol dure 3 heures. Donc, tu vas monter jusqu'à 100 km. Et ensuite, après, tu vas rester à cette hauteur. Il va y avoir une espèce d'énorme chute libre qui va te ramener ensuite après sur Terre et tout se calme bien.
Et tu réatterris
comme un avion.
Ok.
Tout à fait. Donc il y a un seul vaisseau, enfin un seul aéronef qui a effectué 8 vols en tout déjà pour Virgin Galactic. Donc il y a eu 8 heureux passagers.
Ah, et donc c'est peut-être là où ça coûtait 1 million. Où est-ce que je sors ce million ?
250 000 dollars pour faire le vol. C'est plutôt honnête.
Mais go, faisons ça la prochaine fois.
Malheureusement, vous avez peut-être dû en entendre parler, mais le fameux aéronef de Virgin s'est crashé dans le désert de Mojave le 31 octobre 2014, causant bien entendu la mort de son passager et de la totalité des pilotes qui le composaient.
Aïe.
Alors, un site s'est même amusé à lister le nombre de morts possibles qu'il pouvait y avoir dans un voyage suborbital ou dans un voyage
c'est
dans
horrible.
L'espace.
C'est appelé le Enterprise d'ailleurs, le crash du Virgin, c'est appelé le VSS Enterprise.
Le VSS Enterprise, ouais, pour le LOL.
Je t'ai coupé.
Mais quand tu dis c'est le nombre de morts, c'est le nombre de façons de mourir.
Nombre de façons de mourir.
Mon Dieu.
Et ils ont listé. Alors c'est très rigolo, hein, parce que c'est très rigolo. Non, ils le faisaient, c'est pour le bien de, parce que c'était obligé de faire ça.
Ouais.
Mais dans toutes les façons de mourir, il y avait le temps que tu mettais à mourir.
Oh.
Et le niveau de douleur noté de 1 à 10 de la mort que me dit à mourir.
Le time to death, t'en as parlé dans Enquête latérale.
Exactement, voilà. C'est l'âme qui en a parlé.
Il est combien le time to death?
Alors, la pire mort reste la mort par brûlure de la capsule.
Ah.
Voilà,
ah,
qui, elle peut durer jusqu'à 10 minutes et offrir un niveau de douleur de 8 sur 10.
Aïe, aïe, aïe.
C'est quoi le 10 sur 10?
J'ai pas vu de 10 sur 10 en termes de douleur absolue, mais vous avez dépressurisation de la cabine, manque d'oxygène, mort par asphyxie par exemple, vous avez crash, ni plus ni moins. Alors ça, c'est la mort la plus douce.
Oui, parce que ça va vite normalement.
Oui, tu t'écrases et t'es mort.
Ouais, c'est pas mal.
C'est plutôt bien. Mais en gros, on dénombre globalement 25 façons supplémentaires, 25 fois plus de risques de mourir évidemment d'un voyage... suborbital que d'un voyage totalement classique. Et vous savez, beaucoup de projets spatiaux se sont arrêtés parce que les navettes ont explosé ou parce que malheureusement des gens sont morts. Et c'est pour ça qu'on a reculé pas mal sur tous ces projets, tout ça. Alors, c'est bien beau dans tout ça, mais ça sert à quoi les voyages spatiaux, vous me direz?
Oui, c'est vrai, tiens. Est-ce que c'est pas juste une compétition entre pays?
Ça a pas l'air de vous emballer là.
Ah bah si, de ouf,
ça t'emballe.
Bah si. Moi, mais c'est fascinant, mais c'est bizarre, vrai, effectivement.
Si c'est juste pour voir la Terre de loin, je suis moyen chaud.
Oh, vous êtes fou.
Même si, quand même, je serais bien tenté, tu vois. Mais me dis demain, t'as un bus qui t'emmène sur les anneaux de Saturne. Là, je te dis banco, mec.
Non, mais juste juste suborbital, moi, je le prends. Donnez-moi 250 000.
Donnez-moi 250 000, je prends le suborbital.
Mais non, mais ça sert pour les recherches scientifiques.
Tout à fait, ça cherche à financer certains voyages spatiaux. C'est vrai que le tourisme n'est pas... Oui, c'est pas forcément une chose fondamentalement utile, quand tu regardes bien. On parle ici de tourisme, mais...
C'est l'expérience.
Oui, voilà, c'est l'expérience.
Après...
Les voyages forment l'épanouissement personnel. C'est quelque chose qui est évidemment très important.
Là, c'est le très grand tour.
Mais ce qui est surtout très important, c'est que... Et on le constate avec tous les voyages qu'ont fait les hommes de par les âges, c'est que voyager, c'est...
Il y a eu quand même le de tout temps.
Ouais,
de par les âges,
de tout temps,
pas mal,
exactement.
Vas-y.
Voyager, ça permet de s'émerveiller de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles cultures et ensuite après de les transmettre aux générations suivantes qui ont eux aussi envie de voyager, qui ont peut-être plus envie de connaître ce qui est inconnu, de nouvelles cultures, etc. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre société de manière générale, le voyage.
Je pense, pour reprendre le voyage spatial, si t'entends Thomas Pesquet qui est rentré de la Station Spatiale Internationale, qui a passé 6 mois, je crois... Ça lui a donné un grand amour pour la planète Terre et il s'est engagé dans le combat écologique. Enfin, je pense que tu parlais quand tu as commencé ta chronique du fait que les frontières étaient fermées sauf une, mais vraiment pour le coup quand tu es dans l'espace, tu vois plus les frontières.
Exactement.
C'est beau.
Exactement, mais tu me spoil tout ce que j'allais dire.
Pardon,
mais c'est merveilleux, tu vois, c'est parce que on en a justement pleinement conscience. Donc oui, c'est quelque chose qui coûte cher, mais il faut savoir que ce que les gens voit peut-être que ces dernières vont pouvoir être transmises et donner l'envie à des générations futures. Les voyages suborbitaux, c'est aussi un moyen de rallier n'importe quel point de la planète. Peu importe, tu prends 2 points sur la planète, quel qu'il soit, tu peux le rallier en moins d'une heure.
Ah ouais.
Imaginez un New York-Tokyo en 45 minutes.
Imaginez.
Et quand je dis 45 minutes, c'est landing. C'est comment? Embarques, tu décolles, tu voyages, tu atterris, tu descends. 45 minutes.
Tu te prends 4G de pression, tu tombes dans les pommes, mais sinon. C'est
alors évidemment, il faut 5 mois d'entraînement. Mais
c'est ça, ouais.
45 minutes. Parce que là, vous pensez évidemment au voyage.
On ne propose pas le sandwich. Hein.
Oui, non, mais on est très certes. Enfin, on est humain, donc c'est difficile. Mais les objets, ils s'en foutent de faire l'entraînement.
Ah, c'est
on
vrai.
Pourrait transmettre des objets d'un bout à l'autre de la planète en 45 minutes.
Ken, toi qui es quand même très porté sur l'écologie aussi comme nous, ça se passe comment là?
Écoutez, on n'est pas bien là. Hein.
Parce que là, Écoute, tu vas pas me dire que Amazon va bientôt faire des voyages suborbitaux pour t'envoyer
j'aimerais croire,
des chips.
J'aimerais croire que tout le CO2 qui est consommé à 100 km d'altitude, de toute façon, va dans l'espace, donc on s'en fout. Et finalement...
Pourquoi, ah bah bravo, belle mentalité.
Pourquoi ne pas utiliser des cargos spatiaux pour envoyer tous nos déchets vers le soleil?
Mais l'enfer. vers le soleil, ça va, mais j'en discutais avec quelqu'un récemment qui disait qu'il y avait des astronautes qui avaient littéralement pété des câbles et qui ne vivaient pas avec le fait d'avoir laissé des déchets sur la Lune.
Ah ouais?
Ils sont allés sur un espace qui était totalement vierge et ils sont arrivés, ils ont laissé tout, quoi, toute leur merde scientifique, machin, ils sont repartis avec les échantillons de trucs, mais tout le reste, ils ont tout laissé sur place.
Mais du coup, peut-être que la disparition des dinosaures, c'était un cargo de poubelles d'une autre planète qui s'est écrasé sur la Terre.
Sincèrement, plutôt que...
Meilleure théorie.
Je pense que c'est
plutôt
ça.
Plutôt que d'envahir nos pays voisins, pourquoi on ne prendrait pas tous ces déchets et on les enverrait dans l'espace à Pétaouchnok, sans déconner?
Non.
On catapulte Trump directement dans le soleil.
C'est comme si tu disais, je suis dans ma voiture, j'ai un emballage, je vais le jeter en dehors de ma voiture, comme ça il n'apparaîtra plus dans mon champ de vision.
Nous n'avons...
Et donc il aura disparu par magie.
Nous n'avons qu'une seule planète viable, tout le reste, ça ne l'est pas.
Nous n'avons qu'un univers.
C'est notre planète qu'il faut sauvegarder.
Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord du tout avec
l'univers. L'univers est tellement grand, tellement infini. Tes déchets, même si
mais
tu...
c'est exactement
même
la même chose quand
même
tu dis
si
je vais
jeter la
mais
totalité.
C'est exactement
des
la même chose
dans
que si tu jettes ton
coton-tige
dans la mer en disant bon, c'est
mais
l'océan.
Non, parce que c'est notre planète.
Oui, mais c'est grand. Ça se verra pas.
L'espace.
Non, je suis pas d'accord.
Puis avec un peu de chance, ça atterrit dans une étoile et ça
détruit. Je rejoins Chloé là-dessus sur le fait de pas envoyer.
Vous voulez pas polluer l'espace.
À mon avis, je pense que tu vois, genre, t'imagines.
Ça vous gêne pas de polluer ici avec ta C1,
mais vous voulez pas
polluer l'espace.
Non, mais...
Bah, je vais pas dans l'espace avec ma C1, déjà. Ha !
Voilà.
Ça, hein,
tu t'attendais
pas.
Tu peux y aller en Tesla, puisque ça va être la fin de ma chronique.
Parfait.
Mais oui, bien sûr.
Mais bon, pour revenir à ça, outre en tout cas l'émerveillement et toutes les choses que l'on peut faire dans le vide intersidéral absolument gigantesque, il faut savoir que les vols suborbitaux, c'est aussi énormément de problématiques que l'on a lorsqu'on envoie évidemment des véhicules ou n'importe quel vaisseau dans l'espace. Ces problématiques découlent énormément de contraintes, et de ces contraintes découlent de nouvelles technologies qui ensuite se répercutent et sont utiles dans la vie de tous les jours.
Tout à fait.
On pourra toujours décrier le sport automobile, la F1 ou n'importe quel type d'activité qui semble extrêmement polluante, etc. Le fait est que beaucoup de technologies que l'on peut retrouver dans des véhicules de course, se sont retrouvés ensuite après dans nos véhicules à nous pour améliorer la vie de tous les jours.
Oui.
La direction assistée, l'ABS, enfin tous ces trucs-là, la sécurité de manière générale, les arceaux déformables, tout ça, ça vient à la base de protection aussi pour des technologies de pointe. Donc la technologie de pointe, à un moment, sert aussi à nous autres. Depuis 2004, l'entreprise SpaceX, que vous connaissez probablement, a essayé de trouver une alternative plus sûre et moins coûteuse aux voyages spatiaux. Vous avez vu, les voyages spatiaux, il y a beaucoup de morts, ça coûte très très cher, et finalement, c'est pas rentable, puisque depuis 2009, il n'y en a plus, ni plus ni moins, ça coûtait beaucoup beaucoup trop cher, même s'il y a encore 700 personnes dans la liste d'attente pour faire des voyages sur orbite à 250 000.
Quand même.
C'est quand même pas mal. Donc, avec leur technologie de lanceur réutilisable, donc l'idée de réutiliser les lanceurs qui envoient des véhicules dans l'espace ou n'importe quel objet dans l'espace, ils ont divisé par 10 le prix des lancements de véhicules dans l'espace. Par 10.
Donc, c'est quand même vraiment une super technologie qu'ils ont fait.
C'est vraiment une super technologie. Mmh. Les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, après avoir subi quand même énormément d'échecs et avoir eu des investissements massifs, ont réussi à propulser des engins dans l'espace à partir de 2016. Le 30 mai 2020, vous l'avez tous probablement vu sur Internet, vous étiez plus de 6 millions en tout à regarder tout ça en direct sur le net. SpaceX a envoyé 2 astronautes dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale, devenant la toute première entreprise privée à envoyer des hommes, tout simplement, sur la Station Spatiale Internationale.
C'est fou.
Voilà. Et pour ce faire, ils ont utilisé des lanceurs qu'ils avaient déjà utilisés 9 fois, il me semble, ou pas.
Tu vois, ça, ça me plaît, ça, c'est écolo. Mmh.
Pour, alors, c'est écolo. Écolo
la réutilisation,
oui.
Je veux dire.
On réutilise, on n'a pas à refabriquer. Disons exactement. Que c'est écono.
Oui. J'avoue, c'était peut-être pas le meilleur terme.
Parce qu'il faut quand même remplir, remplir les lanceurs de produits pour pouvoir les propulser. Mais voilà, c'est quand même quelque chose. Donc, on imaginez, on a fait x10 en termes de rentabilité. Imaginez tout ce qui pourrait être encore accompli en maîtrisant. Et pour maîtriser, en science, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut expérimenter. Et pour expérimenter les voyages spatiaux, il faut malheureusement beaucoup, beaucoup d'argent. En réduisant les coûts, on peut créer plus d'expériences. En créant plus d'expériences, on améliore de plus en plus ces technologies et on rend les choses plus sûres. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Et c'est comme ça que la technologie a toujours avancé et progressé. Les voyages spatiaux et le fait de pouvoir se dire qu'un jour, on enverra des humains dans l'espace, dans un hôtel dans l'espace, qui pourrait être en orbite géostationnaire autour de n'importe quel point de l'espace, ça pourrait ni plus ni moins que eh bien,
financer
être,
tout le reste. Quoi.
Être comment ?
Financer tout le reste. Et,
financer tout le reste, être l'avènement de nouvelles technologies qui nous serviraient dans la vie tous les jours.
Ouais.
C'est énormément lié à l'énergie, c'est énormément lié à nos capacités de déplacement, c'est énormément lié à nos possibilités de se déplacer sur la planète. Le tourisme spatial et ce rêve fou des hommes dans l'espace, ça pourrait tout simplement changer nos vies sur notre petite terre, dans notre petite campagne.
Effectivement.
C'est beau l'espoir.
Et est-ce que il y a besoin de montrer patte blanche pour être sur la liste d'attente ?
Absolument pas.
Donc ça veut dire que tu peux par exemple te mettre en disant si c'est dans 25 ans, tu auras peut-être gagné d'ici là 250 000 euros.
Ouais,
et tu pourrais peut-être oui. Du coup être dans l'espace et nous faire une petite chronique.
Après, alors, donc, Virgin a quand même craché un de ses aéronefs, donc là, ils sont en train d'en refaire faire un.
Oui, mais d'ici là, d'ici là, sera moi, plus safe.
Je suis pas spécialement très rassuré. Il y a que 8 voyageurs qui ont voyagé avec
oui.
eux. 700 sur la liste d'attente. Je veux bien t'avouer que je crois que la liste d'attente pour se faire cryogéniser est aussi très très grande. Hein. Sachant que la technologie n'existe pas encore, mais tu peux te faire congeler si tu veux.
Tu veux te faire congeler et jeter dans l'espace.
Congeler et stocker, voilà, ouais, comme exactement. Un cercueil de glace. Mais et peut-être, Inch'Allah, en 2050, on te décongèle et on a le droit de te refaire partir, je ne sais pas.
Non, c'est mais beau. Écoute, on va t'inscrire, comme ça tu testeras.
250 000, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de sponsoring, de commutes, en tout cas pour en arriver jusque-là. En tout cas, ce sera peut-être demain. Peut-être que nos enfants connaîtront le Paris-Tokyo à 40 minutes, qui sait. Moi, je rêve d'aller à Tokyo en 40 minutes. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la téléportation.
C'est clair.
Et évidemment, c'est quelque chose qui me fait rêver. Maintenant, il faut encore travailler sur nos transitions énergétiques. Mais voilà,
on
monde change. Le monde bouge. Ouais. On envoie des Tesla dans l'espace. Peut-être qu'un jour, ce sera nos enfants. Victor, ton vélo dans l'espace. Imagine te faire du vélo dans l'espace.
Je le préfère à l'arrière d'une caravane, mais pourquoi pas.
Mais une caravane dans l'espace, ça n'aurait aucun sens, mais pourquoi ouais. pas.
Voilà, n'hésitez pas, évidemment, sur le forum, sur Discord, à nous dire ce que vous pensez des voyages spatiaux. Est-ce que vous l'avez envisagé ? Est-ce que vous aussi, vous voulez aller vivre sur Mars ? Comme tous ces fous
feu, le forum.
Qui veulent...
Ou alors, atdaz.
Oui.
@dazjdm sur Twitter pour rétablir le forum.
Discord, c'est le forum, de toute façon. On est tous là. Et on va se terminer, du coup, avec la dernière news. Et c'est toi, ma petite Chloé, qui nous a réservé de bonnes nouvelles.
J'aurais aimé qu'on termine sur ta chronique qui était poétique et qui nous donnait foi dans le futur. Je vais vous parler d'un truc pour mettre un peu d'huile sur le feu qui m'a profondément énervée. C'est l'interdiction toute récente de la pub VanMoof. Si vous n'êtes pas des aficionados de vélo électrique, c'est une grosse marque de vélo électrique.
Je comptais en prendre un.
Eh bien, continuons à en prendre, hein, c'est très bien. Mais donc, ils ont sorti une pub qui a été interdite en France le 30 juin dernier.
Mais non.
Et donc, la pub, en deux secondes, vous pouvez aller la voir sur leur site. C'est du coup une espèce de voiture qu'on voyait sur un fond noir. Et se reflétait dans la voiture... Plein de choses horribles, des usines, du pétrole. Et au fur et à mesure, la caméra tourne autour de la voiture fond. C'est un effet hein, de la vidéo. Et on finit par « It's time to ride the future ». Il est temps de pédaler vers le futur. Et ça montrait le vélo électrique VanMoof qui, en plus, est magnifique. Et cette pub a été interdite. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi, à votre avis ?
Je trépigne d'impatience.
Alors, déjà, elle a été interdite par, du coup, l'ARPP, qui est l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité en France. Donc, à ton avis ?
Je pense qu'il
fallait pas froisser l'industrie automobile.
Un peu trop forte contre le lobby automobile ?
Exactement. C'est tout simplement ça. La lettre qu'ils ont reçue, ça indiquait que certains plans des reflets de la voiture, donc comme je vous disais, tout se passe dans les reflets de la voiture, discréditent le secteur automobile tout en créant un climat d'anxiété.
Sachant que la pub
est diffusée aux Pays-Bas, en Allemagne, tout ça sans poser aucun problème, alors que l'Allemagne, l'automobile en Allemagne, ça va.
On rappelle que Van Moof est une marque hollandaise. Hein.
Exactement. Donc du coup voilà, un peu étonnant d'apprendre que on peut encore interdire des pubs sur ça, alors que tu fais une pub Audi,
il a la voiture, il aura la femme, il y a pas de problème.
Exactement. Et je sais pas si vous avez remarqué, discutons-en sur une chronique, mais toutes les pubs pour voiture, en général, ça se passe dans des décors magnifiques, au milieu du désert, dans la montagne et tout. C'est rare de voir une voiture coincée dans un embouteillage en ville pour dire, regardez, mon SUV, il est très bien, même quand il va à deux l'air dans un embouteillage.
C'est vide. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. À chaque fois que t'as une pub de voiture, il est 14h, t'es au milieu du centre-ville et t'as une Toyota ou un Nissan Juke qui traverse un boulevard.
Et le mec, il est trop yimbe.
Il n'y a personne. Le gars, il est là, genre en mode, je suis seul au monde. En fait, c'était tourné pendant le confinement.
C'est n'importe quoi. Donc, sachez qu'en plus, on est sur une période qui met en avant le vélo pour la distanciation sociale, qui met en avant le vélo pour tous les bienfaits dont Victor a parlé. Les vélos électriques Van Moof, en plus, donc, on peut avoir l'aide de l'État et l'aide de la région pour faire de l'électrique et inciter les gens. Et l'autorité de régulation de la pub interdit ce genre de choses. Pour la petite anecdote, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'autorité est pas mal critiquée sur sa neutralité et elle a été dénoncée par pas mal d'associations, notamment écologiques, sur les pubs qu'ils empêchent, qu'ils interdisent. Donc c'est un petit peu louche tout ça et un peu biaisé. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à acheter des vélos électriques, c'est la vie.
Tout à fait, hein, le fameux Van Moof X3 qui sont donc leurs nouveaux modèles.
Magnifiques.
Précommandables à donc 2000 euros tout de même le vélo. Mais
2000 euros moins 500 balles.
100 euros, je vous rappelle, d'aide de l'État si vous êtes en région Île-de-France et 200 euros, voire 300 dans la plupart des autres régions de France. Il y a une boutique Van Moof à Paris.
Oui, j'ai uniquement essayé, sur rendez-vous.
Et j'ai essayé de m'y rendre et ils m'ont recalé.
Uniquement
sur rendez-vous. La boutique est prise d'assaut. C'est assez
cool. C'est un peu le Apple de la mobilité électrique vélo.
Alors, il y en a deux qui se prétendent être le Apple. Là, il y a un gros versus entre justement le Van Moof, donc 11 ans d'expérience dans le vélo tout de même passé, et il y a les nouveaux qui sont français, qui s'appellent Angel, qui font le fameux Angel Bike.
Oui. Et moi, je t'avoue que... Alors, Van Moof, j'ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de moins bien. Angel Bike, j'ai entendu que c'était Seb, le
mec de Mythique,
Non.
C'est le... En tout cas, celui qui a fondé Angel, c'était le mec qui a fondé Mythique.
Seb, Seb Lamarck. Seb Lamarck.
Oui, c'est Seb qui les fabrique. En partie.
Seb,
oui,
le mec de Mythique. Non, non.
Non, c'est vrai.
C'est une fabrication française.
À moitié. Ouais. En vrai, ils devaient tout fabriquer en Chine, mais au lieu d'avoir 1500 vélos à fabriquer, ils en ont eu 10 000. Et du coup, ils ont dû utiliser aussi les usines.
C'est un peu le drame du vélo, là. C'est que les listes d'attente sont un peu longues. Je crois que pour Van Moof, c'est entre 3 et 8 semaines, je crois.
Van Moof comptait pas être livré. Alors, je sais pas quand ce podcast sera mis. Il comptait pas être livré avant août, septembre, pour vous dire la vérité.
Mais ils sont très beaux.
Ils sont beaux et ils sont connectés. Ce qui est très bien, c'est que ces vélos sont localisés par GPS.
C'est ça.
Tous. Et que si jamais on vous le pique... Vous savez où est votre vélo, votre téléphone vous dit où est votre vélo, vous dit qu'il a bougé, etc.
Il y a même un service où ils te disent si tu payes ton
240 euros.
C'est eux qui se chargent.
Ils te le récupèrent et si tu ne le récupères pas, ils te remboursent.
Je me suis pas mal renseigné parce que je comptais soit celui-là, soit le Angel Bike. Ils me font de l'œil de ouf.
Ah, tu vas bientôt quitter le camp des trottinettes.
En tout cas, ce qui est bien, pour finir sur cette news, c'est qu'au final, de l'avoir interdite, cette pub, on en parle peut-être un peu plus que si elle avait été tout simplement diffusée. Donc continuons à parler de cette autorité qui régule n'importe quoi et qui ne veut pas montrer que les voitures, ce n'est pas forcément les meilleures choses.
Eh bien, merci.
Tout à fait. Merci beaucoup, Chloé. Merci à vous tous.
Merci
de nous avoir écoutés pour ce 8e épisode de Commute. J'espère vous avoir donné envie de voyager ou de rester les pieds sur terre. Tout dépend évidemment de vos budgets. En attendant, faites très attention à vous si vous partez en vacances, bien entendu, comme d'habitude. Victor, je te vois très sensible, tu veux prendre la parole.
Le Patreon. Bah, oui. Je sais qu'on réclame de l'argent alors que ça fait 3 mois qu'on n'a pas sorti d'épisode. Oui, mais alors, le Patreon de qualité.
Ne sert pas qu'à Commute. Hein.
Oui,
il y a énormément de nouveaux podcasts qui sont sortis.
Écoutez Jetlag qui parle des expatriés.
Tout à fait. Écoutez Jetlag, ce podcast qui me donne envie de déprimer parce que je ne peux pas bouger de France.
Voilà.
Mais qui est très, 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 très bien.
Prenez soin de vous.
J'adore. Et prenez soin de vous. Merci
à
beaucoup.
À la prochaine.
Chloé. Merci beaucoup, Nico, notre réalisateur aujourd'hui, qui nous a permis de réaliser ce podcast ce soir. Et puis rendez-vous pour le prochain épisode. Bisous.